Je vous remercie, donc je considère comme adopté de manière définitive le dernier conseil et sans réserve comme le veut la formule. On n'a pas de point retiré à l'ordre du jour, ni de point rajouté à l'ordre du jour. L'ordre du jour qui va commencer par l'installation. Non, d'abord on a les. On va faire l'installation d'abord, les décisions ensuite. Voilà. Donc, nous avons eu, depuis le dernier conseil, la démission de Madame Combarnous, dont je salue le travail, qui est présente ce soir dans la salle, qui a été élue en 2014, donc, et qui a cessé ses fonctions. Donc, suite à la démission de Madame Combarnous, aujourd'hui nous installons M. Alain Frappoli, comme conseiller municipal. Donc, je demande à l'Assemblée d'en prendre acte. Il ne s'agit pas d'un vote, c'est une installation de droit. Donc, Monsieur Frappoli, vous remplacez Madame Combarnous dans les commissions municipales suivantes: le cadre de vie et travaux, la délégation tourisme, handicap et Carnot. Donc, il est proposé aux membres du Conseil de prendre acte de votre installation et de vous autoriser à remplacer Madame Combarnous dans les commissions évoquées ci-dessus. Voilà, donc, Monsieur Bonguet.
Oui, bonjour à tout le monde. Je voudrais faire une petite intervention, si c'est possible.
C'est possible.
C'est Madame Combarnous qui m'a mandaté d'une lettre qui s'adresse à vous et aux citoyens qui l'avaient élue. D'abord, je salue l'arrivée d'Alain. Voilà. Ça fait un peu plus que mi-mandat, donc finalement, ça tombe presque bien que tu sois là avec nous. Il y a 4 ans, vous avez permis mon élection au conseil municipal. Je vous en remercie de cet honneur. La démission est un acte officiel et volontaire à destination de tiers. Il fait suite à un constat personnel de non-possibilité d'agir et de non-possibilité de résultat de mes actions ou de mes propositions. Pour ma part, ce temps de mandat, j'ai mobilisé toutes mes ressources. Donc elle exprime un peu tous les travaux qu'elle a faits, que ce soit au conseil municipal, que ce soit à l'agglomération, en amont et pendant les assemblées. Et elle en conclut que finalement, elle a eu l'impression de dépenser beaucoup d'énergie pour rien, pour ne pas recevoir l'écoute. La Fabrique citoyenne est venue me consulter avant les élections. Nous avons travaillé ensemble. Au deuxième tour, nous avons fusionné à 4 listes. J'ai eu l'honneur de me retrouver en deuxième position. Malheureusement, une liste n'a pas eu d'élu. En démissionnant, je permets à une personne de cette liste de profiter de cette expérience pendant 2 ans. Elle parle d'Alain Frappoli. Les Carnonais et les membres de la Fabrique regrettent mon geste, mais nous sommes minoritaires. La commune fait ce qu'elle entend en se servant de Carnon comme monnaie d'échange à l'agglomération du Pays de l'Or. C'est ainsi qu'une rue communale, un stade de foot, l'espace sportif municipal Jean Bissiglia sont devenus mystérieusement propriétés de l'agglomération, qui a amodié le tout à une société de camping pour une trentaine d'années. Ne vous leurrez pas, les enfants de Carnon ne pourront pas bénéficier des équipements de loisirs. Cela aurait-il été le cas si un Carnonais était membre du bureau de l'agglomération. Pourtant, Carnon a une population plus importante que certains villages du nord de l'étang de l'Or. Carnon permet à la commune d'être surclassée au titre de station touristique, ce qui permet d'augmenter la grille indiciaire des cadres municipaux et de l'indemnité du maire et de ses adjoints. Mais cela ne profite pas ni aux employés de Carnon, ni à l'augmentation proportionnelle du nombre d'élus de Carnon sur chaque liste. Et à la fin, elle conclut en se demandant « Est-ce que Carnon a toujours sa place dans la commune de Mobilo ?» Voilà, cette lettre, elle la met à disposition de tous les électeurs de Carnon, si vous voulez, vous la lui demandez. Voilà, c'est un peu la difficulté, je le dis parce que c'est bien que les citoyens le sachent, être élu d'opposition dans une commune moyenne comme la nôtre, c'est très difficile, c'est un sacerdoce, c'est un bénévolat très compliqué aujourd'hui, dans des dossiers qui sont très complexes, qui sont très lourds à porter, et c'est vrai que, voilà, ça peut user. En tout cas, merci Christine.
Très bien, monsieur Bourguet, je regrette simplement que l'esprit démocratique qui préside à ces réunions du conseil municipal et même en dehors du conseil n'ait pas été exploitée par Madame Combarnos pour elle-même nous dire en séance lors de du dernier conseil municipal ou conseil de l'agglomération. J'aurais apprécié qu'elle le fasse, même s'il a trouvé un porteur sur des assertions qui n'engagent qu'elle et auxquelles j'aurais pu répondre, auxquelles je ne répondrai pas aujourd'hui, tant certaines sont erronées ou tout à coup inexactes. Cela dit, je salue démocratiquement et humainement le travail de Mme Combarnos, à qui je ne peux pas reprocher un engagement sincère, en tout cas le sien. Voilà. Donc, je le dis avant que vous disiez la vérité. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, je vais.
Il faut comprendre qu'elle a dit, elle le ressent sincèrement.
Monsieur, je ne doute pas.
Voilà.
Je vais maintenant laisser la parole, si vous le souhaitez, à M. Frappoli. Je vous souhaite la bienvenue au sein de ce conseil. Et je vous demanderai simplement, au cours de votre intervention, de nous dire, puisque. Il semble qu'il y ait une relation de transitivité avec Mme Combano. Si vous souhaitez siéger, à quel titre vous souhaitez siéger, si vous êtes tout seul ou dans un groupe ou avec... voilà.
Je vous remercie, Monsieur le maire. Je veux juste être assez concis et succinct. Je vais remercier évidemment Mme Combano, bien que j'ai été le premier surpris d'apprendre sa démission et donc par le fait de me retrouver en ce conseil municipal. Je veux saluer ici le travail de Mme Combarnos, qui a toujours été quelqu'un de très engagé sur beaucoup de points, sur le Lido, sur le Yacht Club, et plein d'autres choses, et sur la vie en général au niveau de Carnon, puisque j'ai la chance d'être propriétaire ici à Carnon et d'avoir quelqu'un de ma famille qui y habite. Et de fait, je suis relativement bien informé de ce qui se passe ici à Carnon. Donc je remercie donc Mme Combarnos et je ne manquerai pas de venir la consulter en sachant que je fais partie de la commission Carnon, ce qui est toujours intéressant de venir consulter des gens qui connaissent parfaitement leur sujet. Voilà. Donc merci madame, et puis voilà, je suis là, je sais que ça fait plaisir à certains, peut-être pas à d'autres, hein, mais comme on m'a dit après les élections, c'est le résultat des urnes, il faut faire avec et il faudra me supporter. Voilà, je voudrais vous dire aussi, monsieur le maire, que je siège ici en tant que responsable et président de l'association des citoyens et contribuables de Mouvio-Carnon, et que par ce fait, j'intègre donc avec beaucoup d'envie ma place de conseiller d'opposition, mais par contre, je serai indépendant dans mes décisions. Voilà,
très bien. Merci, M. Frappoli. Votre intervention, au moins, le mérite d'être claire. Merci pour cette sincérité.
Voilà, je veux dire juste un petit mot. Voilà, Alain, tu vas siéger dans ton propre groupe, mais néanmoins, j'avais décidé que tu gardais la place dans les commissions qu'avait Christine.
Absolument.
Voilà.
Vous êtes seul, mais vous êtes libre, monsieur tutelle. Donc, merci.
Non, je suis sous tutelle de personne, monsieur le maire. Ne vous inquiétez pas pour ça.
On va passer là, et puisque monsieur Bourguignon voulait qu'il avait.
Je l'aurais dit, monsieur le maire. Je l'aurais dit.
Ah bon, très bien. On le verra à l'usage. Très bien. Donc, il nous faut quand même voter. Il nous faut voter pour autoriser M. Frappoli à remplacer Mme Combarnos dans les commissions. Voilà. Qui est contre le fait que M. Frappoli succède à Mme Combarnos dans l'exercice des délégations qu'elle avait. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous revenons maintenant, après l'installation de M. Frappoli, nous revenons donc aux décisions municipales. Alors, ces décisions municipales, c'est le calendrier, c'est le journal quotidien qui est tenu dans ce que vous m'avez autorisé à prendre comme décision, conformément à l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Voilà, vous avez donc des opérations d'habitat, des opérations de décision destinée en justice quand on a des problèmes avec l'urbanisme, Dieu sait s'il y en a, à Mouillot comme à Carnot, on a des conventions de mise à disposition, des avenants à des conventions d'occupation, et en page 7, des contrats de spectacle, des interventions culturelles, dont le détail vous est donné, de même que les procédures adaptées relatives à la base nautique, à la page 8. À la fourniture de matériel horticole, c'est une commission de marché public à laquelle assistait Mme Rabinovici. Oui, elle est pas mal, je dis.
Non.
À la donnée de procuration, c'est bon. Voilà. Et ensuite, à l'installation de logiciels pour les finances et ressources humaines. Et pour finir, la réhabilitation du château des comtes de Melgueil, où il y avait un avenant pour une consolidation d'une poutre. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments que je voulais porter à votre connaissance. Nous allons passer maintenant au point numéro 2 qui succède à l'installation de M. Frappoli. Il s'agit de l'élection à la commission de délégation de services publics suite à la démission de Mme Comarnos. Voilà, donc il faut que nous élisions à nouveau une liste de 5 membres titulaires et de 5 membres remplaçants. Donc je vais vous demander si vous avez... Attendez, je vais vous donner... Voilà, nous avons aujourd'hui la proposition d'une liste que je présente au nom du groupe majoritaire. Je demande à l'opposition si vous avez constitué une liste, et si oui, vous nous dites les noms, s'il vous plaît.
On va vous faire passer le... Oui, vous les écrivez, excusez-moi.
Oui, on va vous distribuer.
Oui, on a constitué une liste.
Annoncez-la.
Et donnez le papier blanc à la majorité, en ce cas.
Alors, Laurent Pradeil, Sylvie Rabinovici, Daniel Bourguet, Simon Legré.
Allez, nous allons donc distribuer les bulletins et procéder au vote.
C'est la commission.
Allez, monsieur Cabré. Madame Aiglem. Monsieur Ganivet. Madame Maillard. Monsieur Léon. Monsieur Sanchez. Madame Muller. Madame Corco. Monsieur Capelletti. Monsieur Pradeille. Monsieur Trapoli. Madame Grèce. Monsieur Bourguet. Madame Levaux, Monsieur Balsamo. J'ai pas pu te répondre. Monsieur Albert. Monsieur Travers, Madame Favier, Madame Sanchez, Monsieur Foucava. Moi j'ai deux ventes. Voilà. Allez. On compte tout d'abord les bulletins. On est combien de présents? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Non, 32, j'ai il y a une procuration qui a pas été donnée.
Ah, Sylvie, on n'a pas voté pour Sylvie.
Comment?
J'ai pas voté.
Ouf,
j'ai oublié de voter pour Sylvie Rabinovici.
Je
vais le faire.
Ouais, vas-y. Hein? On le prend, allez, on le vote.
On fait le bulletin.
Mais il ne faut pas que je sache où est le vôtre. Je ne veux pas qu'on m'attaque.
Vous le direz pas.
Je ne voulais pas qu'on m'attaque parce que je stigmatise votre vote. Allez, je vais fermer les yeux. Pour une fois. Allez. Non, mais attends, il faut qu'elle me le donne. On le met au milieu. Celle-ci est distinctif. Monsieur Bourguet, on ne regarde pas le matériel de vote de sa voisine.
Mais c'est moi qui vote.
Mais c'est elle qui écrit.
Je suis sa petite
maman. C'est juste pour une commission d'appel d'homme. Fais-le sortir la presse.
Je regarde pas. On le met dedans. Allez. On y va. Donc, majorité, monsieur Pradeille. Mais il n'est pas bon ce truc. Il faut le suppléant. Le bulletin, il faut un suppléant. Il est nul. Il faut un suppléant. Mais vous pouvez le désigner. Mais ça marche comme ça.
Vas-y, c'est le nom de la liste. La jurisprudence se dit que si on indique le nom de la liste, c'est bon.
Ah oui. Heureusement qu'on a déjà un ferré en droit. Majorité.
Vous
l'avez fait passer, la jurisprudence. Majorité.
Si le préfet bouge pas, c'est que c'est bon.
Ça, c'est bien rempli. Voilà. Laurent Pradeil, Rabino ici, M. Bourguet, Mme Grèce, très bien.
Allez, c'est moi qui vais remplir.
Blanc. Majorité. M. Pradeil. M. Pradeil. M. Monsieur Pradeille. Blanc. Monsieur Pradeille. Avec une écriture nouvelle. Avec un L à la fin. Tout va bien. Blanc. Majorité. 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 Monsieur Cassard. Monsieur Cassard. C'est la tête de liste. Monsieur Cassard. C'est le président. Majorité. Je n'ai pas trop parlé de moi. Majorité. 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 Monsieur Cassard. Et monsieur Cassard. Alors, nous avons trois bulletins blancs. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulletins avec M. Pradeille.
C'est pas mal.
C'est un bon début.
Pas mal.
Et nous avons 24 bulletins de majorité. Voilà. Donc nous sommes en train de notre service juridique est en train de mouliner tout ça, monsieur Pradeille. Imaginez-vous en train d'être mouliné. Il n'y en a qu'une qui l'est habituellement, c'est madame Tanfort. Alors. De simulation, s'il n'y a pas de simulateur. Alors
il n'est pas prévu qu'on puisse faire un
et M. Pradeille en tant que membre titulaire, en tant que membre suppléant Mme Aiglem, M. Balsamo, Mme Sanchez-Bresson, Mme Gély et Mme Rabinovici. Voilà, écoutez, M. Pradeille, félicitations et bon courage. Vous êtes à 6, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Pour un début.
Ça part de là.
Ça part de là. Très bien. Point numéro 3, il s'agit d'un mandat spécial à l'occasion du déplacement de Mme Moulin-Trafort et de moi-même à Lorca la semaine dernière pour finaliser la 30e romeria qui se déroulera le 8, le 9 et le 10 juin à Moggio. Voilà, il est question de rembourser les frais engagés pour l'exécution du mandat spécial, les frais, c'est les frais d'autoroute et de repas, puisque nous avons été hébergés et accueillis par nos amis espagnols, dont nous aurons le plaisir de la visite au mois de juin. Le maire et le conseiller général qui est devenu président de région devraient être des nôtres. Voilà. Donc les crédits sont bien sûr inscrits à la commune. Je vous demande donc de m'autoriser à rembourser ses frais engagés sur la base des frais réels. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Même exercice pour M. Claverie, qui partira à Beauvais, en Italie, du lundi 23 au jeudi 26 avril, dans le cadre du jumelage qui unit les deux villes, à l'occasion des cérémonies de célébration de la libération italienne. Voilà, donc, même, c'est le même principe, donc je vous demande de m'autoriser à rembourser les frais engagés par M. Claverie, qui sont les frais toujours de voyage, et ceux d'une gerbe que nous déposons, que la commune, M. Claverie déposera au nom de la commune ce jour-là. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et pour finir, encore M. Claverie, qui se rendra à Oradour-sur-Glane, à Montevienne, du 14 au 17 mai 2018, dans le cadre du devoir de mémoire. Il accompagnera les élèves du collège, c'est ça Christian ? Les collèges de l'Étang de l'Or, puisque, au titre de sa délégation et de ses connaissances personnelles, il connaît bien le maire d'Oradour-sur-Glane, et il témoignera avec la commune du devoir de mémoire à cette occasion. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et passons maintenant au point numéro 4, qui est la concession relative aux concessions des plages par l'État avec l'approbation de l'avenant. En fait, vous le savez, nous avons subi le mois dernier des intempéries qui font que l'érosion de la plage ne permet plus l'installation du lot numéro 6, représenté par, qui est exploité par M. Weiss, en lieu, à l'endroit où la délibération l'avait initialement autorisé. Donc, en raison du trait de côte qui ne lui permet plus de le faire, je vous propose que son lot, qui s'appelle la plage, soit repositionné à l'emplacement le plus proche, c'est-à-dire l'emplacement numéro 7, au niveau de l'accès 76, qui n'est pas exploité à ce jour, puisque vous le savez, en termes d'exploitation de la plage, nous avons été très raisonnables et nous n'avons pas voulu surcharger l'espace public par des concessions privées. Donc je vous demande d'autoriser le Conseil à approuver l'avenant numéro 3 qui permet l'implantation du lot numéro 7 à l'endroit où je vous ai indiqué de déplacer le lot. Voilà. Et m'autoriser à signer avec lui l'avenant numéro 3.
Monsieur Bourguet ? Oui, je voudrais faire une observation qui n'est pas vraiment liée au point. C'est que hier j'étais à Carnon-Ouest et j'ai vu que la plage des Costes avait les quatre pieds dans l'eau, que même la mer encerclait totalement la paillote. Donc je me fais du souci, je me demande si la mer va reculer de 20 mètres d'ici un mois. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on va faire, si ça reste en l'état ou presque. Est-ce qu'il y aura quand même la place pour les vacanciers, pour passer entre la paillote et la mer? Je ne comprends pas pourquoi cette paillote est si loin de l'hôtel. C'est assez bizarre.
Je répondrai pour ce qui concerne le point. Chaque année, nous sommes confrontés à cette montée des eaux, à une certaine période, qui fort heureusement ensuite décroît. Donc il va sans dire que l'exploitation de quelques buvettes que ce soit, fût-elle celle des Costes, est soumise à la même réglementation, c'est-à-dire qu'un espace doit être laissé libre entre les promeneurs et l'exploitation du domaine privé. Cela se traduit par une redéfinition, si cela est nécessaire, de l'emprise qu'on laisse à ce qu'on appelle les matelas, c'est-à-dire le pourcentage de surface qui est hors restauration. Voilà. Effectivement, nous faisons cette réflexion, cette observation tous les ans.
Et pourquoi elle est si loin de l'hôtel, la paillote ?
Elle a été définie, écoutez, on a travaillé cela avec l'État, on a travaillé il y a deux ans, ça a fait l'objet, justement, vous savez, le marché a été reconduit. Aujourd'hui, cette paillote est réputée être l'endroit où l'État nous a permis de l'implanter. Ça n'est pas la volonté du maire qui tient si on la mettait là ou là-bas. Ce sont des emplacements qui sont prédéfinis par le DDTM, ils viennent même sur place.
Il y a eu des négociations, puisqu'avant elle était un peu plus en retrait et un peu plus à gauche, on l'a déplacée pour leur faire plaisir quand même. Oui, quand même.
Elle est installée à un endroit qui est réputé convenable. S'il fallait la déplacer aujourd'hui, il faudrait repasser l'avenant au conseil municipal. Toutes les fois que la mer rouge, on va repasser l'avenant.
sauf si cet endroit connaît une agression comme celle que nous venons de décrire, le numéro 7.
Donc je vous invite à voter pour le lot, pour le point 4, si vous m'autorisez à déplacer M. Frappoli.
Oui, Monsieur le maire, le problème des concessions de plage, je le connais bien, puisque je n'irai pas là assez longtemps. Sachez qu'il y a des cahiers des charges,
oui.
Et ces cahiers des charges doivent être appliqués stricto sensu.
Oui.
Sinon, les gens qui les déposent peuvent avoir des poursuites au-delà des poursuites judiciaires. Donc je pense que si cet emplacement est mal posé, je pense qu'il faudrait envoyer quelqu'un de la mairie en charge de faire ces mesures-là, et qu'ils puissent remettre les choses en place si des fois ça n'avait pas été fait dans les règles de l'art. Voilà.
Merci de nous le rappeler, M. Frappoli, mais nous aussi veillons quotidiennement. Aujourd'hui, il s'agit de voter sur le numéro 6, déplacer sur le numéro 7, ce qui n'exclut pas la vigilance sur les autres endroits. On est d'accord.
Excusez-moi, mais juste, je suis allé faire un tour moi du côté du Lido là-bas, et je me suis aperçu qu'il y avait des dégâts énormes au niveau de la bande littorale. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est que moi je veux bien qu'on déplace ce moyen de travail pour cette personne-là, mais quid de ce qui va se passer pour les autres, notamment avec les accès à la plage, avec de sable qui est creusé et qui fait carrément des falaises de plus de 3 mètres de haut. Donc déplacer, je veux bien, mais comment vont faire les autres pour aller sur la plage dans la mesure où peut-être qu'ils vont déboucher justement sur cet emplacement-là.
Vous mettez le doigt sur une difficulté qui est générée par justement les agressions que subit la plage. Chaque année, nous sommes en reconquête du milieu. Nous essayons de l'aménager au mieux et bien entendu, dans les semaines qui viennent, et ça prendra plus de temps qu'une saison, pour essayer de restaurer la masse sableuse. Malheureusement, l'évolution des passages transdunaires régresse et on a un plan de gestion avec l'État, la communauté d'agglomération et la commune, avec des charges qui sont imputables et aux uns et aux autres. Voilà.
Oui, tout à fait, monsieur le maire, mais il me semble que quand le projet du Lido avait été présenté, il y avait des associations, notamment de la Grande Motte et de Carnon, qui avaient justement demandé à ce qu'on ne touche pas la route, parce que la route régulait justement ces mouvements de sable. Or, la route a été enlevée et aujourd'hui, on en voit les résultats. Donc, peut-être qu'il aurait fallu réfléchir à ce moment-là et pas prendre une décision sans tenir compte du principe de précaution.
Alors, monsieur Frappoli, j'entends bien, mais les délibérations sont tournées vers l'avenir et pas vers les regrets. Un travail qui a été mené par le département pendant plus de 10 ans a conclu au déplacement de l'RD 59 contre lequel la commune était initialement. Les études nous ont convaincu la municipalité de la nécessité d'enlever le point dur qui empêchait la fixation du pied de dune, pour reprendre les termes des spécialistes. Aujourd'hui, on en est là. Il s'agit d'un plan de gestion nouveau. Entre-temps, il y a eu la renaturation de l'Ido, qui a été saluée par la région, par le département, par l'État. On ne l'a pas fait dans notre coin, on n'a pas dépensé 5,4 millions en 2012 impunément. On les a dépensés avec l'accord et l'assentiment de tout le monde dans une volonté de renaturation du site. Aujourd'hui, nous essayons justement de déplacer ces lots dans les endroits qui sont à la fois exploitables et où on ne met pas des gens en danger. Donc je vous demande maintenant, après cet échange, de m'autoriser à voter pour le déplacement du lot numéro 7. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant est relatif à l'approbation d'avenants aux sous-traités d'exploitation. Alors, vous l'avez lu, c'est un peu curieux comme demande, mais il est question aujourd'hui, dans l'exploitation des lots de plage, d'autoriser des activités annexes de bien-être et de vente de produits liés aux bains de mer. Ces activités qui sont considérées comme annexes au service public des bains de mer. Donc, je vous demande d'accorder sur la demande des amodiataires des bains de mer, donc de pouvoir, faire droit à la demande des clientèles de ces activités qui sont liées à la vente de crème solaire, de lunettes ou de massage, puisqu'il est question de ces choses-là. Madame Grèce.
Oui, voilà, donc ces activités annexes qui sont, vous venez de le dire, hein, la
oui.
Vente de crème solaire, etc., de Paris Haut, sont une, un manque à gagner pour les commerçants de la station. Et moi, je peux pas voter pour ce genre de choses. Ils ont déjà des difficultés. Et là, on va accroître leurs difficultés.
Très bien. Merci pour ce point de vue. Monsieur Pradeil.
Je voudrais qu'on profite de la question pour vous demander où en sommes-nous par rapport aux redevances. Est-ce que l'argent rentre bien dans nos caisses? Et où en sommes-nous des retards que nous avions constatés ensemble? Est-ce qu'ils ont été rattrapés? Et après, j'aurais une autre question sur... je vous poserai après une autre question sur la qualité de la plage.
On avait un lot de plage, c'était le 9 ou le 10 de Pampa, qui n'avait pas payé, et un moratoire a été conclu avec eux pour qu'ils payent sur 3 ans. Ils rattrapent l'année qu'ils n'ont pas exploité, qu'ils nous payent en ce moment, qui est de 33 000 euros par an à peu près. Combien? 100 000 euros sur 3 ans, voilà. Oui, oui. L'argent rentre normalement. Absolument.
Donc on a un bon accord.
Oui, oui.
Une question sur les plages. Votre prédécesseur avait créé et présidé un syndicat pour voir recharger la plage. Donc c'était, je ne sais plus comment ça s'appelait, le syndicat de la baie des Gomortes.
Des communes littorales de la baie des Gomortes, dont je suis le président en tant que maire de la commune, oui.
Est-ce que vous avez envisagé de réactiver la même opération qui avait été faite à l'époque pour recharger notre plage? C'est une opération qui a tenu entre 5 et 10 ans. Moi, j'ai cru comprendre que le maire du Gros du Roi était embêté. Le Port Camargue était très ensablé, il cherchait des solutions pour se séparer de son sable. Je vous donne l'information.
Il est embêté, pas parce qu'il a trop de sable, mais parce que justement, la mer vient lécher le camping du Boucanet, qui est, si vous voulez, le deuxième chantier sur lequel le syndicat des communes littorales travaille. C'est, le syndicat, il est comme la nature, c'est le mouvement perpétuel. C'est-à-dire que nous travaillons depuis le début de ce mandat, même depuis qu'Yvon Pradeil avait créé ce syndicat. En 2008, plus de 8 millions d'euros ont été utilisés pour le réensablement. Entre-temps, donc, la route a disparu. Il y a eu le plan de renaturation de Carnon, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle le recul stratégique. Et aujourd'hui, ces éléments ne suffisent pas, puisque nous avons un point d'érosion qu'on n'a pas cité aujourd'hui, mais que tout le monde peut observer en tant que carnonnais. C'est celui qui se situe juste après le rond-point et le parking qu'avait fait le Conseil Général, et que ce point, aujourd'hui, s'il n'était pas protégé, serait, disons, submersible dans quelques années. Donc le syndicat a mené une réflexion, il a fait même mener des études par le bureau Casagec, sous l'autorité de l'État, en accord avec la DDTM, et nous avons programmé l'édification de 2 ou 3 épis pour un coût de 1,3 million, entre 1,3 million et 1,5 million, enfin, les choses ne sont pas totalement arrêtées, dont la consommation des crédits devrait intervenir avant la fin de ce mandat, puisqu'il s'agit, comme vous le savez, de plans quinquennaux entre la région et l'État, et que 6 millions d'euros avaient été inscrits à l'époque par notre collègue Robert Croste du Gros du Roi, et que l'État a validé les propositions faites pour protéger la zone dense de Carnon au motif que nous étions à l'entrée de Carnon et que les zones habitées sont des zones où l'on peut effectivement artificialiser la protection par des épis. En revanche, il est beaucoup plus réticent sur les zones où les enjeux économiques sont réputés déplaçables. Les campings, les colonies sont réputées, enfin, vues par l'État, sont des enjeux réputés déplaçables. Et il est demandé au maire du Gros du Roi, notre ami Robert Croste, de déplacer son camping, ce qui lui est très difficile. Donc, il est gêné pour l'exploitation de son camping le Boucanet, mais pas parce qu'il a trop de sable, mais parce que la mer gagne. Voilà.
Si vous me permettez d'insister, il me semble que...
Oui,
il y a un gros problème à Port Camargue aussi, c'est très ensablé. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 2 communes qui pourraient refaire la transition de sable qui a été faite à l'époque. C'est-à-dire qu'on pourrait recharger nos plages avec le sable. Ça a un coût, hein.
Tout autant que la granulométrie est compatible entre le sable qui est parti et le sable qui revient. Les experts, oui.
Elle était il y a 10 ans.
Idéalement,
Le meilleur sable qui conviendrait pour nous serait le sable qui est émergé à la Grande Motte. Il faudrait... si notre collègue à la Grande Motte est d'accord... Le meilleur sable, la meilleure granulométrie n'est pas le sable immergé, mais le sable qui a été lavé, qui a été lessivé, et qui conviendrait très bien, puisqu'en principe, c'est celui qui est parti de chez nous. En principe, voilà. Mais les choses ne sont pas aussi simples que cela. Donc, oui, le syndicat des communes littorales de la baie des Gomorrhes travaille à la protection contre la submersion marine. Oui, une solution est envisagée. Oui, les crédits sont prévus par la région. Il incombera à la commune l'acquittement de 20% à peu près de cette somme. Et je dis haut et fort que nous remboursons encore chaque année 120 000 euros d'emprunt sur le réensablement qui a été fait en 2008, qui a permis quand même de préserver le milieu tel qu'il est. Si on n'avait pas fait ce réensablement, je vous mets mon billet que la mer serait encore beaucoup plus loin. Bon, cela dit, la nature, c'est la nature. Comme disait Pauline Lafond dans un film bien connu, mais sur un sujet différent de celui qui nous occupe aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous demande aujourd'hui de m'autoriser à cela, même si j'entends la remarque de Mme Grest. L'État est favorable à cette démarche, ça fait partie de ce que les concessions peuvent faire. Voilà. Donc après, libre à chacun d'encourager le commerce local et pas forcément le commerce saisonnier. C'est à l'appréciation aussi du client, je le rappelle. Voilà. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, point numéro 6. Alors, il s'agit de l'approbation d'un protocole transactionnel avec la société Action, qui est devenue la société Trafic Communication. C'est la même société. Je vous la fais simple. Il y a deux ans, il avait été envisagé l'acquisition d'un minibus à des fins de transport pour les activités, notamment sportives, de la commune de Moggio. À ce moment-là, un protocole avait été établi entre certains commerçants de la commune et d'ailleurs, qui étaient tout à fait favorables, en termes de publicité, à financer par la position de leurs enseignes sur un véhicule qui répondait à ce dont nous avions besoin. Ils étaient d'accord pour financer, pendant 3 ans, une promotion au titre de la publicité. Il s'avère qu'au bout de 2 ans, donc cette affaire, ils ont acquitté leur première année, ils ont acquitté la deuxième année, la commune pendant ce temps a disposé de ce minibus gratuitement, puisqu'il était payé par la publicité, et il s'avère que la troisième année, seuls 2 des 11 ou 12 souscripteurs, 2 des 11 souscripteurs ont été d'accord pour payer, les autres ont constaté que l'objet initial de la publicité, certes, avait été respecté, mais que l'utilisation des véhicules n'était pas celle qu'ils pensaient au niveau de la commune intramuros pour justement inciter la zone de chalandise locale à consommer chez eux. Et ces bus, effectivement, sortent assez souvent pour des déplacements hors du département. Hein, voilà. Hors de la localité. Donc, au final, la personne qui a fait la transaction au niveau de l'achat des publicités et la mise à disposition du bus a fait son travail. Les commerçants estiment, et quelque part on ne peut pas leur donner tort, que l'engagement initial d'une publicité locale n'était pas totalement respecté. Donc, plutôt que d'arriver à un mauvais règlement avec un conflit, une négociation s'est engagée entre les commerçants, le prestataire et la commune, ce qui fait qu'aujourd'hui, on rachète le bus avec l'argent, avec la somme due par les gens qui voulaient faire la publicité, et qu'au global, nous payons ce bus comme si nous avions acheté neuf à 1000 euros près il y a 2 ans. Voilà. En gros, les choses telles qu'elles se sont passées. C'est-à-dire, nous avons, par le passé, on a vu ce véhicule, il existe encore d'ailleurs, il est désaffecté, on a mis place. On l'a arrêté. Ça avait marché dans deux précédentes mandatures, et cette fois-ci, le bus, au final, ne tourne pas assez dans Moggio et dans Carnon, et les gens, ils ont voulu mettre une fête, voilà. Donc, on va payer le bus 25 000 euros, c'est ça? 27 000 euros, à 1 000 euros près, le prix qu'on aurait payé il y a 2 ans, voilà. Donc, nous préférons, je préfère vous proposer de régulariser dans l'intérêt de la commune et pour éviter un conflit, le fait qu'il n'y a pas eu de mauvaise, manipulation ni d'argent ni d'intention, si ce n'est qu'au final, l'évolution du besoin a plaidé pour une utilisation hors les murs et pas forcément dans mon bureau. Voilà.
Donc, monsieur Bourguet,
je voudrais savoir, vous allez continuer à le mettre à disposition des associations?
Évidemment, monsieur Bourguet.
D'accord.
On le rachète et on le met à disposition des associations, bien sûr.
Et on enlève la publicité en revanche.
D'accord, oui.
Ah oui.
Et on rachète les deux contrats de 900 euros et 600 euros, des deux qui avaient déjà payé, on les rembourse et on fait la publicité pour personne. On rachète le bus est à nous, comme si on l'avait payé à 2 ans. J'aurais préféré que non, j'aurais préféré que nous l'ayons gratuitement pendant 1 an de plus et que nous le rachetions après à l'Argus, mais ça va marcher comme ça. Voilà. Donc, passe au vote, si vous voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, il est question d'un marché de fourniture de produits horticoles. Alors, il s'agit d'accords cadres. Les accords cadres, c'est quoi? Mais c'est des accords qui consistent à... dans un cadre de marché à bon de commande, avoir un fournisseur pour les pesticides. Je dirais qu'il y en a le moins possible. J'aurais pas dû dire le mot, mais je le pointe volontiers comme je l'ai fait à la commission. Fort heureusement, on en a très très peu. Ça, c'est pour les terrains qu'on ne peut pas désherber à la main. Les engrais, les amendements, les terreaux, les bâches, les fines, le petit matériel, les piquets, le paillage, les produits issus du bois. Voilà, donc c'est la société Toucha qui a été la moins disante. C'était la seule d'ailleurs dans certains lots à postuler. Et les ordres de grandeur de prix sont les mêmes que ceux qu'ils étaient dans le marché précédent. Voilà. Donc si vous êtes d'accord, je vous propose d'attribuer les accords cadres par lot avec l'entreprise Toucha.
Oui.
Monsieur.
Non, mais je vais quand même dire un mot sur les pesticides parce que. On a fait une grande campagne de publicité commune zéro pesticides. On a toujours encore 14 000 euros de pesticides, c'est quand même pas rien. Je sais qu'il y a un problème sur les stades, mais si vous étiez venu lors de notre semaine pour les alternatives aux pesticides, vous auriez vu qu'il y a des enfants qui sont contaminés par le contact sur les stades, que ce soit sur les stades synthétiques ou sur les stades enherbés. Que les désherbants sélectifs et les engrais chimiques sont un pesticide et que je pense qu'il faut se mettre quand même en quête d'autres solutions qui existent dans d'autres endroits. C'est un problème sérieux et je le dis aussi pour le stade synthétique qui pose aujourd'hui de gros problèmes.
Je vous rassure, sur le stade synthétique, on n'utilise pas de pesticides.
Oui,
on
oui des billes de pneus. Des billes de pneus.
Monsieur Verre, j'ai dit que le mouillon était à base de coco. Donc il n'y a pas de...
D'accord.
C'est pas un sujet vraiment, oui, vraiment, il y a du sable.
Donc très bien, donc très bien.
Alors, monsieur Bourguet, sachez
donc,
que
très bien.
Dans la première édition, c'était des billes de pneus.
Voilà.
Nous avons...
Parce qu'on les a levées à la pince à épiler, sur les amis.
Oui. Alors, écoutez,
des billes de pneus.
Écoutez,
oui, c'est la vérité. Pour ceux qui avaient des enfants, quand il y avait des billes de pneus, quand ils rentraient, il y en avait partout.
Quand nous avons refait le synthétique... Justement, fort de ces observations et dans un désir de développement durable, nous les avons éliminés. De la même manière, les pesticides, on les utilisait un peu partout. Aujourd'hui, il y a un emploi vraiment très ciblé et 14 000 euros, c'est le montant maximal du marché. Ça ne veut pas dire qu'on va l'acheter pour 14 000 euros à des endroits où on ne peut pas faire autrement, conscient que nous sommes que la préservation de la santé est la première de nos préoccupations.
Je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Pour arriver à la troisième grenouille.
On y arrivera. Pourvu qu'elle ne se transforme pas en carrosse, la citrouille. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 8. Alors, le point numéro 8, c'est une procédure classique. Vous savez, tous les ans, nous cotisons pour les compagnies d'assurance pour assurer le parc automobile. Et également les risques liés au personnel. Tout cela est basé sur le montant réel de la masse salariale qui n'est jamais connu le jour de la souscription du contrat. Et il est d'usage, en fin d'année, une fois qu'on a la somme exacte, de la somme de la masse salariale, qu'on réajuste le marché avec la valeur. Alors, ce marché qui était d'un montant de 505 217,48 €, je vous propose de le réévaluer avec un avenant de 7 487,19 €. On passe au vote, si vous êtes d'accord.
Monsieur le maire, d'où la nécessité de l'augmenter d'autant?
Mais je vous dis, c'est le pourcentage. Je vous explique que on ne connaît pas précisément la masse salariale le jour où on souscrit le contrat. Une fois que l'année est échue, sur la base de ce qui a été réellement assuré, c'est un peu comme un budget primitif, un budget supplémentaire, un BS, c'est-à-dire que le compte administratif dit ce que vraiment on a dépensé l'année qui suit, en juin de l'année qui suit, on vous dit vraiment ce que vous avez dépensé l'année précédente. Et là, on ne sait pas exactement, c'est pas une erreur de prévision, on ne sait pas exactement combien va être le montant de la masse salariale au moment où on souscrit le contrat. Et on le fait tous les ans, c'est une procédure classique.
Ah. Excusez-moi, j'ai 4 ans à récupérer.
Bon, on verra si vous apprenez vite. Vous avez proposé.
Ne vous inquiétez pas.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, donc nous avons le point numéro 9, relatif au schéma directeur de la commune de Moyeux-Carnon. C'est M. Cassard qui va rapporter le point, mais je désirerais faire une présentation de ce point qui va être présenté par M. Cassard. Donc, je suis le porteur d'une volonté d'un projet de renouvellement urbain à Moguio et à Carnon sur une durée de 15 ans. C'est le développement d'une vision avec la mise en place d'une stratégie ambitieuse de développement et d'aménagement durable qui prend en compte, soyez-en certains, à Carnon notamment, le problème de l'assignation marine. Pour cela, un outil. Cet outil, c'est le schéma directeur, c'est-à-dire, c'est un travail qui s'appuie sur des études qui ont été produites par le cabinet Traverse, par le cabinet Pro-Tourisme également, dont nous aurons bientôt les conclusions, relatives à la mise en valeur de l'espace littoral, donc qui a des objectifs à Carnon, c'est le développement de l'économie de la mer, c'est les sports de glisse, c'est ce qu'on appelle la croissance bleue, avec la volonté de réussir l'intégration avec l'écosystème littoral. On en a parlé tout à l'heure avec le réensablement, avec la renaturation de l'Ido. Et un enjeu majeur pour les Carnonais, celui de concilier le développement touristique avec le cadre de vie des Carnonais à l'année. Il n'est pas question de prôner un tourisme qui ne serait pas respectueux, ni des personnes, ni du milieu. Un milieu qui est fragile, un milieu humide, avec un contexte écologique particulièrement sensible. Donc l'idée est d'un point de vue touristique, certes, de redéfinir l'image de Carnon, mais d'optimiser son positionnement touristique avec l'office, et pas qu'avec l'office. Et l'idée, c'est d'apaiser l'espace public. Apaiser l'espace public, ben, vous connaissez tous ce qui se passe l'été, ce qui se passe dans les enclos, les difficultés que nous avons par rapport au déplacement, à la mobilité. Eh bien, cette étude, ce travail, vont être mis en place pour justement travailler sur les modes d'eau de déplacement, sur la circulation, sur la gestion de ces stationnements, avec ensuite, à terme, et ça prendra beaucoup plus de temps, la rénovation du parc immobilier qui aujourd'hui est inadapté. Aujourd'hui, nous avons une opportunité, c'est le plan littoral 21 que la région porte avec une ambition qui se monte à 1 milliard d'euros, une opportunité qui nous permet de corriger quelque part ce que la mission Racine n'a pas su nous donner, c'est-à-dire un plan d'urbanisme pour Carnon avec une ville fonctionnelle, apaisée, et une répartition des espaces publics et privés qui permet d'éviter les conflits d'usage. À Moguio, par rapport à ce que la loi Allure a permis dès 2014, c'est-à-dire une densification urbaine anarchique, qui a mené un manque de cohérence, qui a suscité une déstructuration du tissu urbain,
Nous allons relancer, nous allons réviser le PLU à l'image de ce qui a été prévu et qui va se faire au niveau de la faune de Moguio avec un schéma paysager, une trame verte, je me tourne vers vous, monsieur Bourguet, avec un projet agro-écologique où justement l'intégration de la nature va trouver auprès de l'humain toute sa place. Donc ces ambiances seront créées grâce à la végétalisation et il est question aussi d'organiser en termes d'urbanisme des constructions autour de micropolarités pour organiser le bâti et développer également un réseau de mobilité avec du covoiturage, avec la création de nouvelles aires de covoiturage justement et le développement des modes doux de déplacement avec une autre place accordée à la voiture. Donc c'est cette ambition, c'est un grand chantier que nous lançons, auquel vous avez été associé et auquel vous, Carnonnet, allez être associé à la fin du mois. Une réunion se tiendra dans cette salle le jeudi 26 avril. Une réunion au cours de laquelle ces ambitions vous seront exposées. Et ensuite, nous aurons des ateliers participatifs où nous pourrons aborder les différents sujets, la vision que nous portons et justement discuter des enjeux puisque nous désignerons plus tard une maîtrise d'œuvre qui coordonnera l'ensemble de cette ambition avec des priorités que nous exposerons en temps et heure. Aujourd'hui, il n'est question que d'une chose, de faire adopter, si vous voulez, le principe des modalités de concertation. Toutes les fois qu'il est question de renouvellement urbain, toutes les fois qu'il est question de modifier le PLU, toutes les fois qu'il est question de toucher un espace public, eh bien cela ne se fait pas sans la concertation, et je m'y suis engagé au vœu et pas qu'au vœu. La concertation se fera, des discussions auront lieu, nous confronterons nos visions et ensuite nous déciderons pour arrêter un plan d'action qui se fera avec l'intégration de l'avis des Carnonnais sur la base du diagnostic que nous aurons partagé. Voilà. Donc je tenais à dire cela en préambule et sans plus tarder, je donne la parole à notre ami M. Cassard.
Bien. Je vais vous épargner la lecture ennuyeuse de tous les articles du Code de l'urbanisme que vous avez dû lire d'ailleurs avec passion, je pense, quand vous avez reçu le document. L'objet de cette présente délibération vise à associer toutes les parties prenantes, habitants, professionnels, associations, à l'élaboration d'un projet de territoire dont vient de vous parler M. le maire, qui est traduit dans le schéma directeur. Celui-ci a vocation à définir la stratégie de développement et d'aménagement durable de Moguio, centre de la station de Carnon, et de permettre une projection et une mise en perspective cohérente et à long terme des projets de la municipalité. Sur Moguio centre, la densification urbaine nécessite de travailler sur la structuration de l'espace urbain. Un diagnostic a d'ailleurs permis de dégager les pistes de réflexion et d'action potentielles du schéma directeur, qui s'oriente autour de différentes stratégies qui ont recréé du lien entre les différents quartiers, renforcé les axes majeurs, maîtrisé la croissance urbaine avec une requalification encadrée et réintégré la nature, comme vous l'a dit Monsieur le maire, dans l'espace urbain. Sur Carnon, il apparaît important de concilier le développement touristique, la préservation du patrimoine et la valorisation du cadre de vie, tout en adaptant les aménagements aux effets du changement climatique. 4 axes sont actuellement envisagés, un juste équilibre entre la ville permanente et la station balnéaire, une organisation urbaine plus lisible, vecteur de lien, axé sur la visibilité du port et de la plage, avec une requalification de la porte d'entrée et la mise en valeur des atouts de notre territoire. Une station balnéaire qui mise sur l'apaisement et le développement des modes doux en prenant mieux en compte les différents usages de l'espace public et en questionnant la place de la voiture. Et enfin, une offre touristique reconfigurée et innovante en diversifiant l'offre touristique et en créant une identité touristique propre à la station. La réussite de ce projet est conditionnée par la mise en œuvre d'une concertation qui associera le plus largement possible les habitants, les associations et toutes les personnes concernées. Cette concertation se traduira par des informations qui seront mises à disposition sur le site internet de la commune, la mise à disposition du projet dans son ensemble et d'un registre qui permettra au public de formuler des avis et ses observations. Ce projet et ce registre seront déposés à la mairie de Mobiot à des dates qui vous seront confirmées plus tard, puisque pour l'instant, ça n'est qu'une proposition. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de prendre note de l'engagement et de l'élaboration d'un schéma directeur de développement et d'aménagement durable, d'approuver les objectifs poursuivis tels que précisés par la présente délibération et d'approuver les modalités de concertation telles que précisées dans la présente délibération.
Merci. Merci Bernard.
Oui, des remarques, M. Bourguet.
Oui, bon, moi je trouve l'intention très louable, mais on a vu trop souvent des projets qui étaient ensuite contestés par les citoyens. Donc j'aimerais savoir
peut-être
exactement...
Pour le savoir.
J'aimerais savoir exactement comment, parce qu'il y a déjà des bureaux d'études qui travaillent depuis un certain temps sur ces sujets, et vous avez déjà des idées un peu précises, sans en avoir concerté les Carmonais, par exemple, à l'avance. Donc moi, j'aimerais savoir comment cette concertation, est-ce que ça va être vraiment de demander aux Carmonais quelles sont pour eux déjà leurs priorités, quelles sont déjà leurs visions de Carnon, demander aux Carmonais, dessinez-moi Carnon. Et c'est après qu'on pourra travailler, sinon on marche de nouveau à la mer, on fait de la concertation qui n'en est pas. Donc j'aimerais savoir à quel rythme vous allez avancer avec les habitants.
Monsieur Bourguet, je pense qu'il y a une inversion dans la démarche.
Il y a une inversion, mais on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont écrites et dessinées. C'est ce qui m'inquiète.
Non, attendez. Il y a un rendu, je l'ai dit tout à l'heure, par le bureau d'études de Traverse, qui fait une étude sur la mobilité. Ce diagnostic sera présenté au Carnonais pour le partager. Je l'ai dit tout à l'heure. On verra s'il le partage. S'il ne le partage pas, on discutera. Pour la fin de Mobiot, on a discuté à Mobiot. On est arrivé à une solution.
On a discuté trop tard.
Monsieur Bourguet, quand on parle d'un projet dont la première acquisition s'est déroulée en 2006, on est en 2018, 12 ans plus tard, et vous trouvez qu'on a discuté trop tard?
Ben oui.
Ça, c'est votre point de vue.
Quand la ZAC est promulguée, on n'avait pas encore discuté.
Monsieur Bourguet.
Quand vous avez acheté des terrains, on n'avait pas encore discuté.
Mais, monsieur Bourguet, il faut à un moment donné commencer les choses. Qu'elles ne soient pas tout à fait dans le sens de ce qui vous conviendrait, vous êtes là pour l'exprimer. Néanmoins, de manière très démocratique, j'ai la confiance de la population, d'une équipe que je mène. Je me plais à entendre parfois des remarques intéressantes de la part de l'opposition. Les bonnes idées ne sont pas détenues par qui que ce soit. Je suis démocrate. Les Carnonais vont écouter ce que notre cabinet nous a proposé, comme nous l'avons écouté. Nous allons discuter ces choses-là. Et si nous partageons ce constat, ce dont je suis certain, eh bien nous verrons avec eux comment nous construisons le Carnon des 5, 10 et 15 ans qui viennent, avec petit à petit une première étape qui consiste à apaiser l'espace public, à régler les problèmes de circulation, de stationnement et de mobilité. Dans un deuxième temps, on proposera d'agrémenter avec une... Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de la croissance bleue, mais aussi la trame verte, qu'il convient ici de lutter contre la minéralisation et d'arriver avec des partis pris d'urbanisme à mettre de l'ordre en consultant les commerçants, en consultant les personnes qui ont des maisons, en consultant les citoyens. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, la maîtrise d'œuvre n'est pas désignée, le cabinet qui va écrire le canon de demain n'est pas encore désigné. On ne fera rien cette année si ce n'est que concerter, discuter, proposer, se confronter à des propositions nouvelles pour ensuite, un petit peu comme quand on distille un fruit, le jour où on boit l'alcool, c'est une fois que tout le processus s'est passé, tout simplement.
Voilà. D'accord, on verra.
Oui.
J'espère qu'on n'aura pas qu'à choisir la couleur des trottoirs.
Monsieur Bourguet, je n'accepte pas le projet d'intention.
Non, c'est pas un projet d'intention.
Non, mais quand même.
J'espère.
Très bien, comme ça je préfère.
Monsieur le maire, j'ai entendu votre discours. C'est un discours qu'on entend déjà depuis longtemps, parce que le peu de fois où j'ai pu participer à des réunions,
C'est déjà un discours que j'ai entendu, notamment sur la fonte de Molio. Vous connaissez ma position par rapport à ce projet, où je ne réfute pas la construction d'appartements sociaux, mais je réfute le nombre d'appartements qui vont être proposés, en sachant que dans ces réunions publiques, il n'a été fait état, par exemple, de la pointe de Milaison qu'en dernier lieu, ce qui fait qu'aux réunions publiques, les gens les plus proches de ce projet de la pointe de Milaison n'ont été avertis des constructions que par le fait qu'un jeune couple avait acheté une maison rue Jean Cocteau et que même le notaire n'était pas au courant du projet qu'il avait derrière chez lui. Donc voilà.
Monsieur Frappoli, la pointe de Milaison n'est pas concernée par le projet.
Elle est englobée dans la fond de Molio. C'est sur ce que vous avez mis sur Internet, monsieur.
Ce n'est pas la pointe de Milaison. La pointe de Milaison est une zone de 20 hectares qui est au-dessus de la zone de 19 hectares plus les 11 dédiées à la trame verte.
Et le projet que vous faites alors à la sortie de la rue Jean Moulin, juste après le lotissement Sophie, c'est quoi alors?
Mais c'est la fonte de Molio.
Ah, ben nous sommes d'accord,
c'est la fonte de Molio. Non, monsieur.
Peut-être je me trompe sur la dénomination du terrain.
Oui.
Voilà,
oui.
D'accord. Mais il n'empêche que les gens qui se sont aperçus que la fonte de Molio allait être agrandie sur ces terrains, donc les terrains de la CUMA, si on peut les appeler comme ça, puisque ce sont des terrains qui sont exploités par la CUMA encore aujourd'hui, les gens n'ont pas du tout été informés du projet de construction qui allait être fait derrière chez eux. Donc moi, je veux bien, à un moment donné, que vous nous parliez d'un grand projet urbain au niveau de Molio, comme nous avait dit l'ingénieur, qu'avec la fonte de Molio, on réglerait même les problèmes de déplacement à Molio. Enfin, ça, il est très fort, lui, c'est carrément Merlin l'Enchanteur. Mais je voudrais savoir si, dans les rencontres que vous allez faire avec les Carmonais et les Melgoriens, il y aura donc quelque chose qui sera mis devant le fait accompli, les gens seront mis devant le fait accompli, en sachant que, pour en revenir à ce que disait M. Cassard tout à l'heure, notamment au niveau des articles du Code de l'urbanisme, le 103, le 104, le 441, etc., ces articles ne sont utilisés que quand ça vous intéresse pour dire aux gens que vous travaillez sur des bases de lois et de règlements, alors que dernièrement, pour l'implantation d'une antenne relais aux Garrigues, on est passé par-dessus la tête sur ces articles, sur les accords passés avec l'accord des maires de France, etc. Alors moi, je me fais du souci par rapport à cette situation, parce que je veux bien qu'on fasse toutes les réunions que vous voulez et que vous faites intervenir tous les gens que vous voulez, mais si au bout du compte, c'est pour aller exactement dans l'orientation et la décision que vous avez prise en commission et en conseil municipal, je ne suis pas forcément d'accord. Voilà.
Monsieur Frappoli, vous faites une mauvaise entrée dans ce conseil municipal quand vous dites que les personnes...
Je vous écoute, monsieur.
Je vous demande. Quand vous dites que les personnes concernées... Je ne vais pas dire les noms ici. Il y a monsieur une consonance espagnole et il y en a un autre qui a une consonance particulièrement melgorienne que j'ai invité, auquel j'ai écrit. Il y en a un qui m'a répondu. Je suis même allé chez lui. J'ai eu Saddam avec la SPL pour négocier justement le principe d'un relogement puisqu'ils ont des hangars à l'endroit dont vous parlez. Et le monsieur en question, puisque vous semblez avoir de très bonnes relations avec lui, dites-lui qu'il prenne un autre avocat pour venir me voir. Quand je l'appelle, quand je lui écris, il ne me répond pas. Il est facile ensuite de faire dire par quelqu'un, à moins que ce ne soit une initiative personnelle que vous l'ayez prise, ce qui ne m'étonnerait pas, que je ne l'ai pas consulté. Et ça, monsieur Frappoli, je vous interdis de mentir comme ça devant tout le monde.
Je mens pas, c'est la réalité. C'est la réalité. Ah ben alors là, c'est la réalité. Alors je vous arrête de suite, je suis l'avocat de personne.
Voilà, ouais. C'est une bonne chose. Bon, le sujet est provisoirement clos. Nous aurons l'occasion d'en reparler.
Mais j'espère bien, monsieur le maire.
Bien. Monsieur Pradey.
Moi, je voudrais commencer par une question. Je voudrais savoir quel va être l'impact juridique du schéma directeur s'il était adopté. PPRI, je comprends bien. SCOT, je comprends bien. PLU, je comprends bien. Mais le schéma directeur, quel type de document c'est? C'est un peu flou pour moi. Est-ce que c'est un contenu politique ou un contenu juridique?
Ils sont tentés de répondre que c'est plutôt un contenu juridique. C'est un outil. C'est un outil, c'est pas. C'est une. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui nous dit voilà, on l'a appelé schéma directeur pour exprimer une démarche, c'est un outil de développement qui s'assoit, comme cela est indiqué dans le rapport, sur le respect le plus absolu du code de l'urbanisme qui dit que tout renouvellement urbain doit préalablement faire l'objet d'un accord. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce dont il est question, c'est de prendre acte du principe de la concertation. C'est un outil que nous allons mettre au service de la concertation, par un mode de concertation. On engage aujourd'hui la concertation. Voilà. Parfois, quand c'est une révision du PLU, elle est automatique avec un cahier qui est mis à disposition des gens. Là, c'est une démarche vraiment vers les habitants. C'est une démarche de concertation. Aujourd'hui, on vous demande de valider le principe. Je pense, je serais tenté de dire, c'est juridique. Qu'est-ce qui est politique? Tout est politique. La vision, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vision, c'est de procéder à un renouvellement urbain pour apaiser l'espace public et essayer de faire en sorte que les Carnonais vivent mieux leur ville. On s'est particulièrement occupé de la plage. Vous allez dire, elle n'est pas que pour les touristes, elle est aussi pour les Carnonais. On s'est occupé du Lido pour le renaturer, mais on s'en est occupé surtout pour accueillir des voitures qui sont passées à des Carnonais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps, peut-être, même certainement, de s'occuper de la manière dont on circule dans Carnon, la manière dont l'espace public est géré, la manière dont on peut révéler la mer avec un parking qui permet de déboucher sur la mer et pas sur une barre comme le Saint-Marc. C'est pas de votre faute ni de la mienne. Bon, la Grande Motte, ils ont la chance d'avoir été bien servis. Ils sont dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, de l'architectural du XXIe siècle. Nous, c'est pas notre cas. Donc là, c'est un outil, je serais un outil opérationnel et juridique, voilà, au service d'une vision politique. Voilà. Au service d'une vision politique. La vision, c'est on reconfigure la manière, la mobilité, la manière de vivre Carnon. Voilà.
Donc ici, c'est pas. Non, parce que parfois, quand on enclenche un plus, si une municipalité enclenche un plus, les municipalités qui suivent doivent s'y tenir. Là, c'est un libre débat. La question que je vous posais, c'est est-ce qu'il y aura des incidences juridiques ou pas est-ce que ça sera opposable aux particuliers?
Non, c'est un schéma d'orientation stratégique.
Voilà. D'accord. Donc, simplement. Moi, tout, j'accueille bien volontiers.
Et d'ailleurs, l'ambition qui est la nôtre d'ici 2020, c'est d'arriver à un PADD avec la révision du PLU à Mourioux, à l'image de ce qui s'est fait pour le SCOT à l'époque, quand on a fait en 2006-2007 un PADD, avant de renouveler l'instance délibérante en 2008, laquelle a repris à son compte les études préalables qui avaient été faites, et a validé en 2011, comme quoi, vous voyez, le temps qu'il faut pour réviser un SCOT, le SCOT intercommunal, donc l'ambition, elle est là, quoi. C'est donc, quelque chose qui se construira dans le temps.
Donc là, vous nous demandez l'autorisation d'ouvrir un débat avec les Carnonais, par exemple, pour fixer, clarifier nos stratégies urbanistiques et notre politique de développement.
À Carnon et à Mourioux, et vous avez pu voir qu'on a envisagé, dans les années de 2018 à 2020, une enveloppe de 6,5 millions d'euros, et pour aller jusqu'à 2024, une enveloppe de 13,4 millions. Donc ça, c'est ce que nous envisageons. C'est dire si nous voulons consacrer à la rénovation et à la restructuration urbaine de Carnon tous les moyens possibles que nous avons. En sachant qu'il y a eu déjà d'autres initiatives qui ont été prises, mais qui n'ont pas été mises, si vous voulez, en cohérence, dans une logique, quelque part, d'une vision qui s'inscrit petit à petit et qui se construit, des fois dans la confrontation, mais en tout cas dans l'échange. Monsieur Capelletti.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, mon beau-père, qui est malgorien, lui, d'origine, m'a cité un vieux proverbe malgorien. Il m'a dit, petit, un idiot qui bouge avance toujours plus vite que deux intelligents qui restent assis. Donc, vous avez parfaitement raison, à mon avis, donc de lancer une concertation pour bouger.
Est-ce que par analogie, je dois déduire une fonction qui se révélerait?
C'est quand même. C'est un proverbe.
C'est un proverbe.
Tout rapport avec personne existant réellement.
Je suis passé près.
Donc, comment voter non on a beau chercher, ma collègue me le disait, là, comment vos ténons a une volonté de bouger en se concertant. C'est pas possible. Bon, on a beau chercher, on peut pas. Bouger, c'est nécessaire, parce que ne pas bouger, c'est péricliter. Alors on peut avoir des rêves, en fait, de maintenir une tranquillité, construire des murs, et puis après, on pleure parce que les écoles ferment. Et voilà. Après, on pleure parce que les petits n'ont pas de quoi se loger. Et ceux qui travaillent n'ont pas de quoi se loger. Et les prix de l'immobilier flambent excessivement. Et pourquoi ils flambent? Parce qu'il n'y a pas assez de construction par ailleurs. Voilà. Alors simplement, effectivement, il faut le faire dans la concertation. Moi, après, ça ne me choque pas qu'on se concerte sur la base d'une première vision. Il faut bien partir de quelque chose. Ça se fait toujours comme ça, de toute façon, dans les projets participatifs pour ceux qui en mènent. Et puis après, effectivement, il faut écouter la population et pas l'écouter ou discuter pendant 15 ans non plus. C'est vrai que moi, je trouve que la fonte de Mouillot, la critique que j'ai à faire, ça a beaucoup trop traîné.
C'est plus, si vous voulez, les figures imposées par l'État.
Voilà, après, ils
ont retardé,
après on comprend.
Que le temps de la concertation est un temps qui, en principe, est mesuré. Je pense que nous l'avons bien accompagné et que pour ce début, on va la relancer avec le projet agroécologique. Donc, le livre n'est pas clos, mais le premier tome est écrit.
Voilà. Donc, après, bon, j'imagine qu'on sera amené à reparler effectivement de la vision, mais. Je crois que le point d'ancrage, c'est effectivement de trouver un équilibre entre tranquillité et activité, quoi, en fait, c'est ça. Et par rapport à Carnon, compte des discussions que les uns et les autres on peut avoir avec des Carnonnais, c'est effectivement de trouver cet équilibre et puis d'améliorer effectivement la mobilité, de se repositionner. Il y a une grande discussion à avoir hein, au plan touristique. Hein, comment faire, aller vers où? Donc il y a effectivement plein de débats à avoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ne pas bouger. Ne pas bouger, c'est mourir un peu. Quoi. Donc voilà.
Merci pour votre intervention, M. Capelletti. Bon, une de nos collègues a employé le terme tourisme éthique, c'est-à-dire respectueux des personnes qui sont là et qui vivent l'année. Et l'idée n'est pas justement de faire une animation pour 2 mois. Et pour revenir sur l'habitat, voilà. Je tiens à dire que la commune a acquitté l'année dernière une amende pour carence de logements sociaux de 424 000 euros, qui, à mon avis, aurait été bienvenue pour aménager Carnon ou pour aménager...
Je rebondirai là-dessus en disant que... Parce qu'il faut partir d'une vision de Carnon qui soit aussi complémentaire et différente de la Grande Motte, Palavas, etc. Il faut trouver quelque chose d'identitaire, en fait, spécifique. Et il y a peut-être à creuser ça, effectivement. C'est-à-dire que c'est une station balnéaire, à la différence de son balnéaire qui ne vive que 2 ou 3 mois dans l'année, où on vit, où il faudrait vivre, en fait, toute l'année. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose à creuser de ce point de vue-là. Hein. Le tourisme éthique, pourquoi pas.
Je formule le vœu qu'un jour on parle de Carnon en le situant autrement qu'entre 2 villes qui sont Palavas et la Grande Motte. Qu'on dise que cette ville à côté de Carnon et que l'on parle de nos voisins. Voilà. C'est l'ambition à long terme.
On pourrait dire c'est là où il y a la super passerelle.
Par exemple.
Il n'y a plus qu'à la construire. Hein.
Voilà. Mais les passerelles, c'est ce qui relie les gens.
Ben oui.
Hein, voilà. La solidarité, ça n'est pas à vous qui avez la fibre particulièrement. Si j'en crois les développements politiques de la semaine dernière et l'élection du dernier bureau du Parti Socialiste, vous devez savoir que l'association Passerelle est une association qui œuvre pour l'entraide et que de manière symbolique, les passerelles ont toujours été celles qui ont permis aux gens de se parler. On passe au vote. Vous avez d'autres interventions? On passe au vote. Monsieur
le maire, dans le cadre du nouveau PLU, il me semble avoir lu quelque part que pour présenter un PLU, il fallait un PPRI qui était mis à niveau. Bon, est-ce que le nouveau PPRI a été entériné par le préfet?
Alors nous avons apporté à connaissance. Mais si tu veux répondre, vas-y. Réponds.
Non, pour l'instant, nous sommes en possession du porté à connaissance.
le porter à connaissance, nous a été communiqué par la préfecture. Le préfet nous a recommandé, bien évidemment, de tenir compte de ce porter à connaissance pour étudier tous les projets d'urbanisme à venir. Mais actuellement, le PPRI n'est pas encore approuvé ni terminé par la préfecture.
Merci, M. Cazar.
Bien. On passe au vote, si vous voulez bien. Donc, je vous demande d'approuver le principe du... Alors, l'engagement d'une démarche d'élaboration d'un schéma directeur de développement d'aménagement durable avec les objectifs tels qu'ils ont été définis et surtout approuver les modalités de concertation telles que nous les avons précisées et m'autoriser à signer la délibération en ce sens. Oui, ou le premier rejoint. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Continue, Bernard.
Alors, le point numéro 10, donc c'est la passation d'une convention de mandat d'études, de travaux avec la SPL lors aménagement. C'est dans la droite ligne du point précédent, puisqu'on parle toujours schéma directeur. Pour profiter effectivement et s'intégrer dans la démarche plan littoral 21 menée par la région, il convient de lancer sans tarder la réalisation sur les 6 prochaines années des travaux d'aménagement identifiés au schéma directeur en ce qui concerne Carnon. Le coût de ces travaux, monsieur le maire vous l'a dit tout à l'heure, est estimé à 6 437 281 euros TTC. Pour mener à bien ces opérations, il vous est proposé de confier la maîtrise d'ouvrage à la SPL leur aménagement sous la forme d'une convention de mandat qui s'élève à 258 060 euros hors taxe. Il vous est donc demandé d'approuver la passation de cette convention que vous avez bien sûr lue dans le document qui était joint et d'autoriser le maire à signer la dite convention.
Oui. C'est bon, Guy ?
Oui, donc là, vous voyez, tout à l'heure j'étais inquiet et cette convention, elle montre que j'avais raison d'être inquiet. Parce que par exemple, on lit dans cette convention le budget, un budget de 5 364 400 euros et 83 centimes. Et on nous dit qu'il n'y a rien qui est prévu, qu'il n'y a pas des travaux qui sont déjà. Après, il y a des annexes dans lesquelles on nous présente des tableaux avec des avancées précises de travaux contenues dans le temps jusqu'en 2022, jusqu'en 2023. Donc ça veut dire que beaucoup de choses sont déjà écrites et dessinées, comme j'ai dit tout à l'heure. Cette convention, elle est prématurée, elle n'a pas de lieu d'être tant qu'on n'a pas eu le débat avec les citoyens. J'estime que signer cette convention aujourd'hui, ça veut dire que la concertation, c'est du pipeau. Voilà ce que je veux dire. Et ensuite, une deuxième raison, c'est qu'une convention de 300 000 euros pour gérer le schéma directeur, je pense que ça mérite au minimum un appel d'offres, parce que j'aime bien la SPL, leur aménagement, mais je ne suis pas sûr que ça ne mérite pas un appel d'offres sur des sommes aussi importantes. Voilà, donc je pense que là, d'ailleurs, je voudrais remarquer qu'on a reçu le projet de convention, qu'on n'a pas eu les annexes, aucun de mes coéquipiers n'ont pu lire les annexes, qui sont très très importantes. La dernière annexe, je l'ai eue tout à l'heure. Les autres, je les ai eues vendredi. Donc ça prouve bien qu'on peut être inquiet par rapport à votre vision de la concertation. Donc je voterai contre pour toutes ces raisons.
Le principe d'être contre n'est pas un principe contestable. Ce qui est plus contestable, M. Bourguet, c'est que vous puissiez dire que la somme de 258 000 euros de rémunération dans les SPL est du passé, pas un appel d'offres, puisque par définition, vous devriez savoir...
J'ai pas dit que vous étiez obligé. J'ai dit que ça aurait mérité. Je sais que vous n'êtes pas obligé, mais ça aurait mérité.
Je rappelle que la SPL est administrée par des élus, qu'elle est au service de la commune de l'intercommunalité, et que ce statut de SPL vient justement de nous faire payer ce qu'on appelle le juste prix. Je précise qu'à l'inverse des promoteurs ou de certaines sociétés d'aménagement, la SPL ne se verse pas de bonus sur les opérations et restitue aux communes les bénéfices qu'elle peut réaliser. Et qu'à ce titre, la sincérité de la somme qu'elle nous demande
demande de payer a été étudiée, négociée avec la commune et qu'elle n'est pas le fruit du hasard. Voilà. Ensuite, la semaine dernière, nous avons fait une réunion. J'aurais apprécié, M. Bourguet, que vous me disiez, j'ai pas eu telle ou telle pièce, si toutefois cela s'avère exact. Moi, je vous
mets dans les pièces. Oui, mais c'est pas normal. Les pièces, on aurait dû les avoir mardi. On n'aurait pas dû les avoir.
Mardi, vous risquez pas de les avoir, elles ne sont pas envoyées.
Mais si, on les reçoit le mardi, les pièces.
Non, quand le lundi n'est pas le lundi férié. Vous aurez pu les avoir mercredi.
Les pièces, je les ai reçues mardi, sauf les annexes. Les annexes, on ne les a pas eues.
Mais vous les avez demandé, quand vous les avez demandées, on les a données, M. Bourguet.
Mais c'est pas normal. C'est... Vous comprenez pourquoi Christine Combarneau, ça a fait un burn-out.
Ah bon ? Bien, écoutez. Monsieur Pardé.
Si vous voulez, monsieur le maire, je fais une explication de vote. Je ne voterai pas contre, parce que je ne voudrais pas marquer une défiance par rapport à la SPL qui fonctionne très bien, et à chaque fois qu'on a des échanges avec la direction de la SPL, on a toujours des échanges, un très républicain et deux de très haute qualité.
Le président vous remercie.
Là-dessus, ça se passe toujours très bien. Je pense que je parle au nom de toute l'opposition pour dire qu'on est toujours bien accueilli.
Mais j'ai pas dit que ça se passait
mal.
Oui,
non, mais je vais m'abstenir pour ça.
Je constate qu'on a un dossier très précis et qu'on nous dit qu'on n'a pas encore concerté.
Mais justement, c'était ma concession. Moi, c'est vraiment pour marquer que j'apprécie l'appel, que je m'abstiens. Cela dit, tous les arguments de M. Bourguet méritent d'être déployés en conseil municipal. Sur la question du schéma, moi, quand je vois un parking au nord de la ville, ainsi de suite, on pourrait avoir des échanges, et on a eu un début d'échange qui était intéressant ensemble. Et vous allez avoir d'autres échanges avec la population. Mais je ne parle pas au nom, moi, des Cardonnais et de ce qui sortira de la consultation. Mais ne serait-ce qu'avec votre opposition. Je pense que si on ne ferme pas l'angle, si la commande n'est pas aussi serrée, moi je trouve qu'elle est un peu trop serrée, la commande que vous avez passée à la SPL. Elle est un peu trop pointue. Si on prenait le temps de rediscuter ensemble, ne serait-ce qu'entre majorité et opposition, on aurait peut-être un projet où qu'on pourrait co-construire. Donc, moi, là-dessus, le fait que ce soit que l'angle soit un peu trop fermé, je ne vais pas vous accompagner parce que je me fonde sur ce qui s'est passé sur d'autres dossiers. Prenons le cas de la Fonde de Monguio. Sur la Fonde de Monguio, on a eu quelques échanges sur, par exemple, je vous ai demandé plusieurs fois d'avoir un effet retard sur l'ouverture des commerces pour protéger les commerces du cœur de ville. Bon, mais c'est des discussions sur lesquelles on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Je vous ai demandé d'avoir un effet retard sur la création de l'école. C'est des discussions où on n'a pas eu de cadre pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, dans la manière dont on co-construit, on le fait de manière informelle, mais on n'arrive pas à le faire, à améliorer nos échanges. Donc, c'est pour ça que je m'assieds.
Je peux attendre certaines choses, M. Prenet, et l'école, on la construira quand on en aura besoin. Si vous tournez vers Sophie Campagne, C'est pas qu'on veuille différer la construction de l'école quand ça nous arrangera. La construction des commerces à la Fonte de Monguio, elle n'est même pas programmée. Les premières maisons seront là en 2020. Il n'y aura aucun commerce en 2020, on est en 2018. Donc, que certaines discussions vous semblent inabouties, peut-être, hein, mais il n'y a aucune décision qui a été prise. Monsieur, votre voisin, M. Campenetti, l'a très bien résumé tout à l'heure. Il a dit on part quand même d'une proposition qui est faite par le groupe majoritaire, qui est de dire: nous avons un diagnostic rendu par un cabinet d'études qui s'appelle Traverse. Ce rendu pose des préconisations, pose également une base de discussion. Comment voulez-vous que nous allions voir, avec nos conseillers régionaux qui sont dans la salle, la direction, l'organe délibérant de la région, en disant, voilà, nous avons des intentions. Comme dit M. Bourguet, on va discuter avec la population, et dans 2 ou 3 ans, on viendra vous voir pour vous demander des subventions. Ça n'est pas possible, on est obligé quand même, soyons sérieux et rationnels, nous sommes obligés quand même de quantifier à un moment donné dans notre PPI notre capacité d'investissement, qui n'est pas immense, mais qui est très forte, notamment sur Carnot, hein, au moins qu'on ne nous fasse pas ce reproche. Et aujourd'hui, on est obligé quand même d'affirmer des intentions dont nous discuterons des modalités en avec les gens qui sont sur place, et nous sommes obligés également de faire une évaluation budgétaire pour le présenter. Nous avons présenté, je vous l'ai présenté tout à l'heure, à la région nos intentions avec des parties prises d'aménagement que la région nous demande également de faire selon certains critères. La requalification urbaine à Montguillot ne sera pas soutenue par le plan littoral 21 parce que le plan littoral 21 s'applique à Carnot. Donc nous avons quand même des critères d'éligibilité dans lesquels nous rentrons, et encore ils sont, nous les trouvons, nous, assez vagues, et ils se précisent au fur et à mesure que les techniciens de la région instruisent le dossier. Donc on est quand même obligé de partir sur certaines bases. On n'a rien décidé du tout.
Moi, si vous permettez, monsieur le maire, j'étais extrêmement sérieux quand je vous ai parlé tout à l'heure, et je ne pense pas avoir de propos futiles. On peut se baser sur notre expérience commune. Sur la question, je reviens sur la tour de Montguillot. Il a fallu, que je reconte dans une réunion de concertation pour m'apercevoir que vous nous rendiez une copie publique où on n'était pas à 30% de logements sociaux. Il a fallu que de manière informelle, je passe par là où les chats s'étranglent, pour qu'on finisse par me dire si peut-être on va y aboutir. Vous avez fini par me dire ça, monsieur le maire. J'aimerais simplement qu'on ait des endroits où, de manière formelle, on se dise voilà, ça avance comme ça, ça avance pas, c'est tout ce... Et là, je trouve que les endroits où on se parle entre élus sont peu marqués et que la commande qui est faite à l'ASPLA a un angle très fort. Je ne critique pas le travail et les contraintes de calendrier. Je dis simplement qu'il y a une disproportion entre la précision de la commande que vous avez passée et la nécessité que vous avez, sur des dossiers aussi importants, de consulter tout le monde, y compris votre modeste opposition, qui a fait 6 quand même.
On vous invite, même des fois quand vous ne venez pas, on fait des sessions de remplacement. Je précise quand même que sur la prod de Montguillot, pour vous répondre, le nombre de logements sociaux est défini de manière immuable, 30%, et que c'est le curseur que l'on déplace, on en met un peu plus, un peu moins, avec des parties prises d'aménagement, où on ne peut pas faire ce qu'on veut en fonction du nombre de logements que nous créons. On avait aussi, par rapport à la communauté d'agglomération, l'espoir que l'espace où justement il y a les réservoirs de pompage, nous aurions davantage d'espace. On n'a pas pu réaliser les lots que nous voulions. C'est pour ça qu'on a été embêté. On ne va pas, au fur et à mesure qu'on a un problème technique, venir pouvoir dire là on est embêté, on va faire différemment. On a fait beaucoup moins de logements.
On est arrivé. 30%, ça vaut la peine qu'on s'en parle.
Mais 30%, c'est dans le cahier des charges depuis le début. Et j'ai encore mal au doigt d'avoir fait ce chèque de 424 000 euros à l'État, je vous le dis. Je n'ai pas envie de continuer. Hein. Bien. On passe au vote, si vous voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, toujours Bernard.
Alors, le point numéro 11, qui est les modalités de mise à disposition du public d'une modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune. Par arrêté 132 du 4 avril 2018, il a été décidé d'engager une modification simplifiée du PLU afin d'apporter des modifications rédactionnelles mineures au règlement applicable aux zones UF 1 à UE2 et AUF du PLU. Ces modifications se porte sur les règles applicables à l'aspect extérieur des constructions qui sont dans ces zones et les normes de stationnement qui doivent être adaptées à la vocation de ce secteur. C'est-à-dire que dans ces secteurs-là, il y aura beaucoup d'entrepôts, beaucoup, on a eu le cas avec Azix dernièrement, la règle du PLU dit qu'il faut une place de stationnement pour 60 mètres carrés. Quand il y a des entrepôts, il faut quand même être un peu plus large au niveau de la contrainte de stationnement, puisque les entrepôts, par définition, sont destinés à entreposer des marchandises et non pas des êtres humains qui viennent en voiture. Donc, voilà, on va élargir les normes de stationnement. Conformément à l'article L153-47 du Code de l'urbanisme, ce projet de modification simplifiée doit être mis à la disposition du public pendant un mois, selon des modalités qui doivent être précisées par le conseil municipal. Donc nous vous proposons que ces modalités soient la mise à disposition du public pendant un mois à la mairie, accompagnée d'un registre permettant au public de formuler ses observations,
et la mise en ligne simultanément sur le site internet de la commune.
Bien, donc c'est relatif à nos zones d'activité. Des questions?
C'est pas vous, monsieur le maire, c'est uniquement sur la zone d'activité de Fréjour, hein?
Oui. Ok. Oui. C'est ça, c'est sur le pion.
D'accord.
Le parc.
Vous avez un plan qui a été joint, hein,
alors... Oui, mais je ne vais pas.
Bon, on passe au vote. Qui contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours Bernard.
Le point numéro 12, la modification du code postal de Carnon. Cas unique en France, notre commune est dotée de deux codes postaux distincts, à Moggio et à Carnon. Cette situation engendre des difficultés et des retards dans l'acheminement du courrier et des colis par la poste, impactant les Carnonais. Et en outre, les services d'urgence et les services publics, c'est ça qui est très important, sont pénalisés par la confusion née de ces deux codes postaux, celui de Carnon étant identique à celui de la commune voisine de la Grande Motte. Les conditions matérielles du traitement du courrier par la poste, ce qui nous a été confirmé dernièrement, étant désormais réunies, il est proposé aux membres du conseil municipal de modifier le code postal de Carnon 34280 en 34130 Moggio, et cela à partir du 3 mai prochain. L'adresse des administrés de Carnon sera donc à côté du 3 mai, le nom, bien sûr, le nom de la rue est Carnon-Plage, 34130 Moggio. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'adopter, à compter du 3 mai, la modification de ce code postal et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Merci Bernard. Les remarques? M. Papouli.
Oui, M. le maire, j'ai eu quelques appels de Carmonais qui se posaient du souci par rapport notamment au changement de nom de rue aussi. Et ils se font un souci d'encre parce qu'ils ont peur que ce soit, surtout au niveau des administrations, je veux dire au niveau des impôts par exemple, des trucs comme ça, où de fait, avec le nom de changement de rue, les adresses ne se retrouvent pas et elles soient renvoyées au niveau des administrations et les gens se trouvent le bec dans l'eau par rapport à cette situation. Donc peut-être que des changements de nom de rue. Pas sur le Quéménier, par exemple, ou alors que, encore que le Quéménier aurait pu rester Quéménier, à la différence de la rue André-Méliand à Moggio, mais les gens se font beaucoup de soucis par rapport à cette situation et se demandent si, pendant combien de temps, l'ancien compte postal va encore fonctionner en attendant que tous puissent faire les démarches auprès de leurs différentes administrations, assurances, etc.
Bon, M. Cassard, qui s'est occupé du sujet, va répondre.
Bon, alors, en ce qui concerne le Quéménier, je vous dis tout de suite, le Quéménier ne change pas de nom.
Si, il perd le prénom.
C'est
marqué sur le truc. Il perd le prénom. Il devient Quéménier. Il était Quai-André Meynier, il devient Quéménier.
Oui, on enlève le prénom, oui.
Oui, oui.
Ça reste toujours le Quéménier.
Oui, j'entends bien. mais entre Quéménier et... C'est pour ça que je comprends pas pourquoi vous avez enlevé le prénom. Dans la mesure où Moggio, c'est la rue André Meynier, et Carmont, c'est le Quai-André Meynier.
Mais c'est été sur un des conseils de la Poste. Hein. La Poste, ah, oui. Oui, la Poste a des normes bien précises avec des noms qui sont référencés. Et enlever le prénom, donc Quai André Meynier et rue André Meynier, si on enlève un prénom, il y a bien le Quai Meynier et la rue André Meynier qui permet à la Poste de distribuer le courrier plus facilement.
Ah, si c'est la Poste.
C'est un travail de collaboration avec la Poste que nous avons mené.
Il y a un travail de dentelière qui a été mené depuis plus d'un an. Et je puis vous dire que ce sont les dysfonctionnements, notamment administratifs, et je puis vous dire qu'en tant que premier magistrat de la commune, il n'est pas agréable, le jour d'élection, de recevoir des personnes qui vous disent « Monsieur le maire, je n'ai pas reçu ma carte d'électeur parce qu'elle a été mal adressée, ainsi de suite. » C'est pas une fantaisie un matin qui m'a prise pour justement me dire « Tiens, on pourrait changer le code postal. » C'est vraiment, vraiment une nécessité pour acheminer de manière sûre le courrier, éviter les dysfonctionnements. Et quand on attend des courriers officiels, il est important que ce constat que nous avons partagé avec la Poste soit remédié avec un accompagnement. La Poste, donc, on attaque le 3 mai,
on demande d'ici fin juin à ce que les Cardonnais et les Melgoriens qui sont impactés par ces changements, qui vont se faire aider justement par des personnes qui travaillent à la mairie, par nos services municipaux, puissent le faire. Nous avons obtenu de la Poste que la Poste, pendant le temps qu'il faudra, accompagnera quand même cette transition. On n'est pas quand même dans une urgence telle que l'ancienne adresse ne vous parvienne plus. Néanmoins, dites à ces personnes, quand vous aurez l'occasion d'aller voir, et cela nous arrive à nous aussi, de leur dire, attention, les GPS, les adresses de SAMU, de secours, sont paramétrées, vont être paramétrées avec ces nouvelles normes, de sorte qu'il n'y ait plus ces confusions. Voilà. Après, c'est pour avoir une ville plus fonctionnelle. Pendant un certain temps, vous savez, c'est comme quand on achète des nouvelles chaussures. Il y a une période d'inconfort, le temps qu'on se les passe aux pieds, et ensuite, on est content de les avoir achetées. C'est vrai que pendant quelque temps, les Cardonnais vont dire, tiens, on est un peu embêté. Celui qui n'a rien demandé à personne va dire, et moi, on me fait changer. Ben oui. Mais c'est justement pour un meilleur acheminement du courrier, et ça sera accompagné. Et il y a même 5 enveloppes, on va donner au fur et à mesure aux Cardonnais les moyens du préadressage envers les autorités administratives et leurs assurances, leurs mutuelles, des enveloppes déjà préadressées. Ça a été travaillé avec la Poste pour un partenariat constructif. Il n'est pas question de laisser l'usager pour lequel on veut le bien complètement désorienté en se disant, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, vous avez... Il y aura même aussi un numéro vert dont tous ces documents vont être au fur et à mesure distillés. Quand je dis distillés, c'est-à-dire à chacun. Et pour ce qui est des professionnels, il y aura une remise commentée faite par le facteur. Voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement sérieux qui a coûté de l'argent à la commune. Oui, c'est que c'est pas un service gratuit, mais c'est un service qui se veut plus performant et qui, en termes de... l'identité met fin à quelque chose qui est complètement aberrant, une commune qui a deux corps de postaux différents.
Oui, monsieur le maire, mais on s'en était déjà rendu compte. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est votre troisième législature, si je ne me trompe pas. Et sur votre troisième législature, vous êtes aperçu qu'il y avait un problème de code postal à Cardon. Moi, ça me laisse un peu dubitatif.
Je vais demander à M. Carpelletti s'il n'a pas un idiot de reste qui traîne par là pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Effectivement, la Poste, jusqu'à présent, ne nous permettait pas, depuis, on y est après, je puis vous dire, même avant moi, mon prédécesseur, Yvan Pradeil, et peut-être même le prédécesseur d'Yvan Pradeil et Michel Bacala, avait peut-être essayé déjà de s'y frotter. Hein? Voilà. Et la Poste refusait. Et je puis vous dire aujourd'hui, puisqu'il y a des Cardonnais, et je les remercie d'être présents, j'ai demandé également, à la faveur de ce changement de code postal, une amélioration de la desserte de la Poste. Laurence Gély, qui est élu à Cardon, Dominique Balsamo m'ont fait remonter les dysfonctionnements que subissaient les Cardonnais au guichet de la Poste. Et j'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec un directeur de la Poste pour justement essayer d'améliorer le service public. Voilà.
Elle tant mieux, monsieur le maire.
Voilà. Ben, voilà. Voilà. Alors, donc nous tendons vers. Alors, des fois, on y met le temps.
J'en ai une autre, monsieur le maire.
Allez-y, monsieur Carpelletti.
Alors, William Faulkner a écrit
William.
Reprenons Shakespeare. La vie est une histoire sans queue ni tête, racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur.
Nous le mettrons au procès-verbal des conseils municipaux, M. Capelletti. Il restera dans les mémoires.
On va l'appeler Maître Capello.
Je pourrais l'appeler Maître Capello, mais c'est pas moi qui l'ai dit.
Ça n'a le rang, on ne l'a jamais fait.
Elle était de saison.
Bien. D'autres interventions. Voilà, donc je vous propose de voter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Ben, je vous remercie pour cette unanimité. Qui plaide, je pense, pour une décision attendue dans tous les sens du terme, et qui, j'espère, nous satisfera. Voilà.
Ça, c'était le point 12. En posant sa question, M. Frappoli avait anticipé sur le point numéro 13. Le point numéro 13 concerne effectivement le changement de dénomination de certaines voies. Alors, pourquoi avoir changé la dénomination de certaines voies? Eh bien, tout simplement, comme vous le savez, il y a des homonymies entre les rues de Carnon et les rues de Moguio. Et nous avons pensé qu'il était logique, avec la Poste d'ailleurs, il était logique d'éviter plusieurs démarches aux Carnonais. C'est-à-dire, étant donné qu'ils auront une démarche à faire obligatoirement pour le changement de code postal, nous en avons profité pour toiletter le nom des rues, ce qui leur permet de faire la démarche en même temps que le code postal en une seule fois. Voilà pourquoi nous avons toiletté le nom des rues de Carnon. Voilà. Donc, je ne vais pas vous réciter, puisque vous les avez dans le document, le nom des rues qui vont changer. Si vous le voulez, je le fais. Voilà. Donc, il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les modifications et nouvelles dénominations présentées et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette affaire. Simplement pour vous rassurer ou pour conforter notre démarche, nous avons essayé de rester dans une certaine logique, puisque les rues qui portaient des noms, par exemple, je prends l'exemple de la rue des Romarins, elle est devenue la rue du Thym. Donc on est resté dans la même catégorie de dénomination. Voilà.
Sûr qu'il y a pas la... Vous n'êtes même pas des carcasses, c'est comme ça.
Il n'y a pas la rue
du Thym. M. Capelletti ?
Alors, j'ai une question.
C'est que vous avez aussi cité Gionnur.
Non. Il n'y a pas un padillon. Cabidoule, qu'est-ce que c'est?
Le cabidoule, c'est un oiseau de l'État.
Qui ressemble au colvert, alors, c'est ça? Non. C'est pour garder le... Non.
C'est un oiseau.
Donc c'est un oiseau.
C'est pas un canard. Ça n'est pas un canard. Le chasseur qui est là...
On va demander au spécialiste, Bernard.
Bernard Ganivin.
C'est un chevalier. La famille des chevaliers. La cabidoule, c'est un nom qui est propre ici à la région. On dit le cabidoule, bon, c'est le chevalier. Gambette, il y a plusieurs chevaliers, ils ont quatre aspects de chevalier. Là, ça fait plus
d'un. Voilà. C'est un chevalier. Merci, Bernard. Bien, on passe. Non, il faut finir.
Vas-y. Le deuxième point de la délibération numéro 13, c'est la dénomination de voie suite à la construction de la ligne à grande vitesse et du doublement autoroutier à Moguio. En effet, certains chemins ont été soit coupés, soit supprimés et rétablis par ailleurs par les travaux des travaux de la LGV et de l'autoroute. Donc il convient bien sûr de renommer ces chemins de renommer les chemins qui sont rétablis et ceux qui ont été coupés, de leur donner une deuxième dénomination. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair.
Si. Et puis, il nous manque l'aéroport.
Hein. On prendra le B après, c'est pas grave.
Il a survolé le sujet, il a oublié l'aéroport.
C'est vrai, j'ai survolé le sujet, je n'ai pas le B. Enfin, il s'agit en fait, le B... De donner le nom à deux rues qui desservent l'aéroport, qui sont actuellement sans nom. Ces deux rues vont être dénommées. Alors, l'une, Jacqueline Auriol, je cherche. Voilà, Jacqueline Auriol, donc tout le monde sait qui est Jacqueline Auriol, c'était une aviatrice française. Et le deuxième, Margot Dualdé. Je ne la connaissais pas, je ne sais pas si vous la connaissiez. C'est une aviatrice qui est d'origine française, qui était la seule aviatrice des forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc qui est devenue plus tard colonel de l'armée de l'air.
Ce sont des propositions qui ont été faites par l'aéroport.
Par l'aéroport, oui.
On pense que la connotation était de bon ton.
Domptable.
Bien. Pour l'ensemble du A, du B et du C, je vous demande votre accord. Qui contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le D maintenant, monsieur Cassard.
Le D. Donc, les Medjugorjens connaissent, je pense que les Cardonnais peut-être aussi, mais les Medjugorjens connaissaient monsieur Daniel Jiménez, qui a été une figure medjugorjienne puisqu'il était l'un des créateurs de la Romeria. Il a été président de l'association Toros y Toreros. Il a été le président de l'association des commerçants. Et malheureusement, il est décédé le 9 juin 2013, à l'âge de 54 ans, sur la Romeria. Donc, pour honorer sa mémoire, il a été proposé de dénommer l'espace Daniel Jiménez, un espace qui est dédié sur l'esplanade du boulevard de la Liberté à Moggio, où était sa casseta, d'ailleurs.
Ah oui, d'accord.
Pardon, cassé.
Bien, merci, monsieur Pradeil.
Oui, monsieur le maire, moi je suis ravi qu'on commémore la mémoire et l'action de Daniel Jiménez par rapport à la Romeria. Mais je pense qu'à ce moment, on est dans un moment d'anniversaire pour la Romeria, je pense que ça me ferait plaisir qu'on rappelle dans notre délibération, donc je propose un amendement, qu'on rappelle que c'était sous. Que ça a été créé sous la municipalité de Michel Bacala. C'est une connotation importante. C'est un moment où on a voulu faire de notre communauté espagnole une fierté partagée. C'était une volonté politique forte et qui, je pense, qui fait consensus aujourd'hui à Montpellier. Donc je voudrais qu'on rappelle
à
Moggio. Le lapsus est intéressant à Montpellier. Les Montpellierains nous en parlent beaucoup de la Romeria. Ils disent que c'est vraiment quelque chose qu'on a fait de bien. Je pense que ça serait bien qu'on rajoute un petit mot sur la mémoire de cette municipalité. Et je profite, monsieur le maire, pour peut-être vous demander au conseil municipal, après la disparition de Michel Bacala, je pense que ça serait. Maintenant que nous sommes tous apaisés dans notre manière de faire de la politique ensemble, je pense que ce serait une bonne chose pour chacun d'entre nous qu'on se retrouve pour commémorer la mémoire de Michel. Et si à l'occasion on trouvait moyen de baptiser une de nos édifices ou de nos rues du nom d'un de nos maires qui a été. Tout le monde le dit, même s'il a été controversé dans certains de ses choix qui a été bon pour la ville de Moggio et pour Carnon. Je pense qu'on ferait œuvre utile de mémoire.
Bien, donc je relève deux points dans votre demande, M. Pradeil. D'abord, le fait que vous saluiez la genèse de cette anomalie dont nous fêtons cette année les 30 ans. Nous allons fêter les 30 ans, qui était l'objet de notre déplacement avec Mme Moulin-Trafort. Et qui était l'objet, pour ceux qui ont pris le temps de venir, de saluer le travail qui a été fait par Jean-Michel Léon au cours des 17e rencontres généalogiques, où un remarquable travail a été fait sur les familles d'Espagnols qui étaient en 1921 venues à Moggio. Tu veux en dire un mot, Jean-Michel, très rapidement?
Oui, bonsoir. C'est oui, pendant la 17e édition des rencontres généalogiques qui ont eu lieu ce week-end à Morastel, on avait soumis l'idée de faire, puisqu'il y avait les 30 ans de la Romeria à Moggio, de faire une étude il y a pratiquement 100 ans en arrière à Moggio, donc en 1921. Donc on a pris le recensement de Moggio à cette époque-là, qui compte à peu près 3400 habitants, et de sortir de là toutes les personnes d'origine espagnole qui vivaient donc à Moggio en 1921. Donc on a fait ce travail-là, on l'a extrait, on a fait un panneau, en donnant par rue et par masse les personnes qui avaient leur ville d'origine. Voilà, on a fait ça, et je pense qu'on va l'exploiter aussi pour la Romeria, pour le 31e anniversaire, et faire à nouveau ce travail-là et le présenter au public.
Voilà. Merci Jean-Michel. Donc le deuxième point que je relève, je suis tout à fait favorable à ce qu'on cite le maire qui a présidé à cette initiative, hein, puisque certains d'entre nous s'en souviennent. Daniel Jiménez a été l'un des créateurs. Ça n'est que justice que de rendre hommage aux personnes qui ont contribué, au premier magistrat qui était en place à ce moment-là. D'autres rues portent les noms de premiers magistrats ou de personnes politiques ou qui ont eu des fonctions locales. Bon, sur le principe, moi je vous donne mon accord de principe pour justement nous intéresser à cette démarche tout autant que la famille le souhaitera. Puisque rien ne peut se faire sans la demande de la famille, je crois savoir que vous avez un peu mandaté ou que vous l'avez suggéré à la famille. Voilà. Très bien. Donc on ajoutera au procès verbal sous le mandat de Michel Bacala. Voilà.
Merci.
Donc je vous propose de passer au vote de cette dénomination. Qui est contre? Qui s'abstient?
Je vous remercie. Monsieur Cassard, il est en forme.
Le point numéro 14, c'est l'implantation provisoire de deux structures modulaires sur le quai Tabarly à Carnon. Dans le cadre de la construction de la nouvelle école de voile, il est envisagé d'implanter provisoirement, bien sûr, deux structures modulaires sur le quai Tabarly. Ces structures de 54 mètres carrés feront office de vestiaire et sanitaire pour les usagers de l'école de voile pendant la durée des travaux. Voilà.
Donc, la nécessité du chantier.
Oui, monsieur Brouin.
Je voulais juste poser une petite question à la marge. On a vu qu'il y a eu des gros problèmes sur le chantier, avec une dalle qu'il a fallu recasser, redémolir, parce qu'elle a été endommagée par les intempéries au cours de sa construction. Donc le chantier a pris du retard. Est-ce que pendant la saison estivale, ça va rester en l'état, ou est-ce que ça va être mis en propreté, vu le retard qui est pris?
Monsieur Albert, je voudrais préciser que c'est pas la mer qui a endommagé le plancher.
C'est le vent.
Non, c'est que ce plancher n'était pas aux normes. Il avait des faiblesses, et quand ils ont coulé le plancher, on s'était aperçu qu'il péchissait. Donc on a pris le risque, on a fait tout enlever. Et donc à partir d'aujourd'hui ou d'hier, le plancher va être remis. Vendredi sera fini. C'est vrai, on prend 3 semaines de retard. On va essayer de les compenser. En sachant bien sûr qu'au mois de juillet, au mois d'août, il n'y aura pas de travaux dehors. Donc on fait l'impossible pour récupérer. Mais effectivement, on aurait pu enlever que la morceau qui avait cédé, mais on a préféré tout changer. Voilà. C'est pas la mer qui l'a endommagé.
Excusez-moi. Alors, monsieur Pradet, quand vous dites que ce n'était pas aux normes, c'est-à-dire que c'est le bureau d'études qui s'est planté ou...
Non, c'est le fournisseur qui a fourni un plancher qui n'était pas. Il était prévu pour 3 plus 16, hein, il a mis un 3 plus 13. Hein. Voilà. Donc c'est l'épaisseur des poutres qui n'était pas bonne.
C'est la fête. Hein.
Voilà, donc c'était la surprise. Hein, bon,
c'est la point de vue.
Alors dépend, parce que...
C'est un chantier sensible, c'est un chantier...
Ouais, si on ne le voit pas, c'est au nôtre.
Hein. Oui, non, mais écoutez, on l'a vu, la preuve, c'est que... Voilà, la preuve, c'est qu'on suit le chantier, effectivement. Voilà.
Ah bon?
Voilà. Donc, il est question d'installation de deux structures modulaires sur le quai Tabarly. On le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard, point 15.
Oui. Le point numéro 15 est une convention d'occupation du domaine public relative à l'implantation d'une station de relais avec la société Free Mobile. Pour pallier la suppression prochaine des antennes qui sont situées sur le château d'eau, la société Free nous propose un bail valant convention d'occupation du domaine public pour organiser l'implantation d'une antenne sur le site du parking du Petit Travers. Outre les installations de téléphonie, cette antenne accueillera également les équipements techniques de vidéosurveillance et de radio de notre commune. Cette convention est fixée pour une durée de 11 ans, elle est révocable bien sûr à tout moment, et prévoit le paiement d'une redevance annuelle de 17 000 euros, y compris les charges, et de 5 000 euros par opérateur supplémentaire. En effet, Free va construire l'antenne, mais certainement que les autres opérateurs que sont Orange et Bouygues vont peut-être venir se greffer sur cette antenne, et donc à ce moment-là, ils seront redevables d'une redevance de 5 000 euros pour l'occupation. La redevance est basée sur l'indice du coût de la construction, c'est-à-dire qu'elle est évolutive. Voilà.
Oui, c'est un engagement que j'avais pris par rapport aux riverains carnonnais, que nous avions pris. Madame Julie et M. Balsamo s'étaient fait les relais de cette demande du voisinage que de supprimer les antennes qui étaient sur le château d'eau au regard des ondes qu'elles produisaient. Et certes, il faut bien les mettre quelque part, mais on les met dans un lieu qui n'est pas un lieu habité, qui est un lieu de stationnement provisoire et qui permettra justement de fournir les commodités attendues en termes de téléphonie mobile que nous y sommes enfin arrivés. Nous avions, si vous souvenez-vous-en, prorogé de 6 mois au conseil précédent l'exploitation par les opérateurs télécoms des antennes sur le château d'eau. Donc ça aussi, ça a pris du temps, mais nous y serons arrivés.
Voilà. Et pour compléter, je voudrais ajouter que, conformément à ce que nous faisons chaque fois qu'il y a une pause d'antenne, nous demandons un bilan, une situation, un diagnostic avant le changement ou la pause de l'antenne, et nous demandons ensuite un contrôle pour voir si l'antenne qui est installée est bien dans les normes européennes, françaises, etc., en ce qui concerne les ondes. Ce contrôle et ce diagnostic est effectué par un bureau indépendant et il est payé par les sociétés de téléphonie.
Merci, Bernard. Monsieur Cassard, j'entends bien ce que vous dites. C'est par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'antenne qui a été implantée au Garrigue. Mais celle qui a été implantée au Garrigue, vous avez délivré un permis de construire en sachant que personne n'a été averti, en sachant que le permis de construire n'a pas été affiché de manière à ce que les populations autour puissent vous faire des retours en lettres, en recommandés et accusés réception, en sachant que vous deviez en faire des réunions publiques. C'est inscrit, c'est comme ça que l'Association des maires de France a signé une convention avec les fournisseurs de téléphonie mobile dans lesquelles vous devez faire des réunions publiques. Je vous cite là que le strict règlement pour l'implantation de ces antennes. Or, en plus, cette antenne, elle est implantée là uniquement pour la LGV, pour que les gens puissent avoir le Wi-Fi dans la LGV. Or, moins que j'ai pas lu comme il fallait le livre, mais d'après ce que j'ai entendu dire et que j'ai lu, la LGV ne risque pas de fonctionner d'ici un certain temps, voire un temps certain. Donc je pense que cette antenne n'a pas lieu d'être là. Elle n'a pas lieu d'être là dans la mesure où elle a été implantée dans une situation qui n'est pas légale. Voilà, c'est tout.
Je pense que vous parlez d'une antenne qui est située sur le domaine privé. Oui. Qui n'est pas sur le domaine
mais public. La réglementation est la même pour le privé ou le public.
Non. Nous ne sommes pas responsables des antennes qui sont posées sur le domaine privé.
C'est vous qui délivrez le permis.
Qui résulte d'une convention entre la SNCF et le privé.
Non. Voilà. La réglementation est pour le privé comme le public, monsieur Cassard. Je suis désolé.
Je ne pense pas que vous ayez raison, monsieur. Mais enfin,
je vous amènerai les justificatifs.
Je vais creuser la question, si vous voulez.
Oui.
Mais je suis persuadé que non. Et je souhaite que, éventuellement, vous m'appreniez des éléments, si vous en avez.
Vous inquiétez pas, je vais venir vous voir en mairie.
Merci.
Bien. J'ai une petite question à la marge. Je vais sortir un peu du sujet, puisqu'on a parlé des ondes. Il y a une question en ce moment qui défrait la chronique. C'est juste une petite aparté.
Monsieur, vous pouvez très rapidement.
Très rapidement. Oui. Très rapidement. Je vais vous parler des compteurs Linky.
Ah non.
Je vous demande juste de mettre à l'étude une délibération. Voilà. Dans laquelle vous diriez que les gens doivent. On ne pourra pas leur imposer sur notre commune les compteurs Linky, ça sera sur la base du volontariat. Il y a 500 communes en France qui ont voté cette délibération. Je vous demande juste ça, c'est tout.
Nous en avons parlé en bureau communautaire, nous reviendrons sur ce sujet. Oui. Vous me ferez des demandes officielles,
d'accord,
bien sûr.
Je vous écrirai.
Et je vous répondrai comme j'ai l'habitude. Nous passons. Maintenant, l'antenne est à nous, au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient, je vous remercie. Monsieur Albert, on aura l'occasion de vous parler d'autre chose que la base nautique.
On va parler de vacances. Hein.
Voilà.
Modification des tarifs communaux 2018, vacances sportives. Hein. Afin de continuer à proposer des activités de qualité durant les vacances sportives, hein, et en même temps de garantir l'équilibre financier entre la participation parentale et celle de la commune, monsieur le maire vous propose de procéder au vote d'un nouveau tarif pour 5 jours complets d'activité à 53 euros au lieu de 50 euros. Soit 42 euros la semaine de 4 jours, 31 euros la semaine de 3 jours, ce que comporte les jours fériés. Il faut savoir qu'actuellement, c'est 50-50. Les parents payent autant que la commune. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas
augmenté. Non, l'inverse, la commune paye autant que les parents.
Oui, voilà. C'est différent. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas augmenté, donc par contre, les prestations augmentent. Donc, pour égaliser un peu, donc on augmente de 3 euros.
Il manque plus que ça. Bien. Madame Grèce ?
Oui, moi je trouve encore dommage qu'on demande un sacrifice à ces familles. Souvent ce sont des familles modestes qui mettent des enfants aux vacances sportives et même si c'est 3 euros, c'est 3 euros plus 3 euros. Ouais.
En somme, je vous renvoie au principe du contribuable et de l'usager. À partir du moment où le contribuable paye la moitié de ce qu'il ne consomme pas, j'estime pour le moins normal que l'usager participe un petit peu à cet effort, compte tenu que je ne connais aucune association, aucune formule qui divise par deux le coût réel d'exploitation. Là, on ne peut pas dire qu'on ne sort pas dans la solidarité. Sinon, cela veut dire qu'il faut augmenter la contribution des autres qui n'en profitent pas. Je ne trouve pas ça tellement équitable. Mais c'est peut-être votre avis, puisque vous l'exprimez. Voilà. Et la CAF est convaincue. Oui.
Il y a l'autre possibilité qui est d'avoir de faire des inscriptions au centre de loisirs, et là les tarifs sont indexés sur la CAF. Donc là en fait au niveau des tarifs c'est dommage. Ceci dit, 53 euros qui n'arrivent pas, même avec les tarifs CAF, c'est moins cher qu'avec les tarifs CAF.
Je comprends pas. Tout à l'heure, on va tous se morflondre collectivement sur le fait qu'on ferme des classes et qu'on n'a pas assez de jeunes dans la ville. On partage tous l'analyse qu'il faut aider les familles qui ont des enfants en bas âge pour pouvoir revenir à la ville. Et là, on augmente de 3 euros, alors que dans le même budget, moi, c'est une discussion que j'ai eue. Que j'ai eu avec certains, avec votre adjointe aux affaires scolaires par exemple, sur le fait qu'on n'allait plus avoir la charge d'étape, puisque on va s'en passer. Donc c'est un budget jeunesse qu'on aurait pu garder, et on s'est dit comment, avec cette capacité budgétaire, donc politique, on pourrait aider nos jeunes. Donc j'ai pas encore vu, j'espère que je vais avoir des propositions d'ici une prochaine BS. D'action en faveur des jeunes. Et là, on augmente. Mais vous voulez quoi? Qu'on fasse une commune, enfin, qu'on en fasse un EHPAD et rien que ça?
Non, mais je veux dire.
Mais non, mais vous le savez quoi, qu'il y a une difficulté. Là, actuellement, il y a une difficulté fiscale. Vous savez que ça tire, que le pouvoir d'achat tire. Vous augmentez de 3 euros. Une augmentation de 6%.
On n'a jamais laissé un enfant de côté parce que les parents ne pouvaient pas payer. Jamais. Sachez aussi qu'on veut augmenter justement, jusque maintenant, les adolescents n'arrivaient pas à être mis. Ils ne venaient pas. Donc, il faut trouver des activités pour les adolescents. C'est ça qui aurait été plus cher. Donc, effectivement, c'est un équilibre. Et on n'a jamais laissé un enfant de côté. Jamais. Il ne le laissera jamais.
Dans le cadre, M. Pradeil, dans le cadre d'une politique.
Non, je partage vos mots. Je ne partage pas vos chiffres. Et ici, on me demande de voter des chiffres. Monsieur Votre intention est bonne. Vos budgets ne le sont pas.
En termes de chiffres, M. Pradeil, et de manière très sérieuse, je vous demande de trouver un accueil pour une semaine moins cher que ce que nous proposons avec la qualité d'encadrement qui est la nôtre. Je vous demande de le chercher. Alors, nous sommes exemplaires et à vous dire, nous serions défaillants. C'est votre analyse. Je vous la laisse.
Non, mais monsieur, il y avait des politiques qui fonctionnaient, monsieur le maire. Et là, on sait qu'on est dans un moment difficile. On pouvait s'enorgueillir de politiques qui fonctionnaient. Et dans un moment difficile, ces politiques, on les dessert. Donc, et vous savez très bien qu'on doit mener des politiques pour attirer et pour consolider les familles les plus modestes dans notre ville. Vous savez, c'est un faux compte. Parce que notre moyenne, quand on fait la péréquation... Quand on fait la péréquation, on lâche combien au niveau du fonds de compensation aux autres villes? On lâche 500 000 euros. Si on faisait venir les pauvres, ces 500 000 euros, on les économiserait. C'est une fausse bonne idée.
Alors, hop, monsieur Pradeil, vous vous trompez.
Non.
Le fonds de péréquation intercommunal est basé sur le revenu moyen par habitant de la communauté d'agglomération dans laquelle nous sommes.
Et de la ville.
Il n'est pas du tout basé. Non, c'est la communauté d'agglomération, puisque nous sommes redevables d'une contribution, alors que les Montpelliérains, par exemple, sont admissibles, sont bénéficiaires. Voilà. Ce n'est pas un choix d'affecter
en fonction de plus de jeunes ou moins de jeunes.
On en reparlera.
C'est le revenu moyen par pardon, vous allez me le dire. Oui.
Comme Madame Bach n'est pas là ce soir, je ne vais pas plus loin au niveau budgétaire. On n'a pas d'argent. Bon.
On fera pas de, on fera pas de BS. Cette année, on fera pas de BS.
Ah ben voilà, à plus.
Voilà.
Vous avez même pas une session de rattrapage.
Bien. On passe au vote. Hein. Qui est contre? Vous avez bien le droit qu'on le voit bien. C'est bien. Qui s'abstient? Je vous remercie. Jean, continue.
Demande de subvention auprès du Conseil régional Occitanie-Pyrénées-Méditerranée dans le cadre du 10e anniversaire de Fête des Sports. La ville de Moyoucan organise le 1er septembre 2018 la 10e Fête des Sports en partenariat étroit avec le tissu associatif local ainsi qu'avec certains acteurs économiques locaux. Cette manifestation gratuite et ouverte à tous se compose de différents temps morts forts comme les épreuves sportives, ateliers d'initiation, démonstrations et une remise de trophées. Monsieur le maire propose de solliciter une subvention le plus élevée possible pour l'organisation de la 10e édition de la Fête des Sports auprès du Conseil régional de l'Occitanie, Pyrénées, Méditerranée et est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire.
Bien, on passe au vote. Contre, abstention, je vous remercie. Toujours Jean.
Bon, toujours demande de subvention auprès du Conseil régional et du Conseil départemental, cette fois-ci, pour la création d'une casquette pour la buvette et de la mise hors d'air partielle du boulodrome en Rivernis. Monsieur le maire propose aux membres du Conseil municipal la nécessité de protéger partiellement du vent et de la pluie le boulodrome de la plaine des sports en créant une casquette de protection de buvette en montant un mur du côté ouest et en mettant en place plusieurs portails. Le coût de l'étude de maîtrise d'œuvre est estimé à 10 000 euros hors taxe et les travaux à 80 000 hors taxe. Monsieur le maire propose donc de solliciter une subvention le plus élevée possible au titre de l'étude de maîtrise d'œuvre et des travaux pour la mise partielle hors d'air du boulodrome auprès du Conseil général de l'Hérault et de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Bon. On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Continue, Jean.
Alors, toujours demande une subvention. Dans le cadre de Sucarnon, de la création d'un parcours, alors, excusez-moi pour la prononciation, de street walk out. Super. Voilà, excusez-moi, je suis démunis, moi.
Tu l'as dit en catalan, on va dire en occitan.
Alors, une des premières opérations participant à la diversification de l'offre de la station de Carnon s'appuie sur la pratique sportive des habitants et des visiteurs. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de demander les subventions le plus possible auprès du conseil départemental de l'Hérault, la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée de l'État au titre du plan littoral 21 pour un montant provisionnel de 111 000 euros TTC pour la création d'un parcours, que je vous dis tout à l'heure, sur la page ainsi que d'une zone d'utiliser la pratique sportive en libre accès. D'autoriser M. le maire à signer tout document à cette affaire.
Il s'agit en fait de l'aménagement d'une zone avec des agrès.
C'est à peu près 20 mètres sur 10, à peu près sur 15.
20 mètres sur 10, voilà, c'est comme un grand terrain de City Stade, voilà, qui sera libre accès. Donc, par exemple, de monter les tarifs, mesdames et messieurs, voilà, qui sera ouvert pour justement les canonnées, d'abord, et aussi pour les touristes quand ils viendront voir les canonnées.
Et on va aménager aussi un lieu qui va s'appeler le Carré, donc fonction du Carré, où il y a 4 terrains de tennis, il y avait 4 terrains de volley. 2 terrains de tennis ballon, de skydine et un petit terrain de foot à 3 ou 6. Voilà, ce sera à côté. Ça va être un refaire de cette plage, un lieu un peu de sportif.
Voilà.
C'est sûr. Est-ce que vous pourriez nous préciser exactement où c'est?
C'est la plage est située devant Place Cassin.
Ah, derrière le Place Cassin.
Voilà, oui. Moi, il y a un terrain de volley actuellement. Oui,
il y avait un poste de secours.
Voilà.
Voilà. Donc, on met l'accent sur les pratiques sportives avec justement la proximité de la Grande Bleue à côté. On passe au vote, si vous voulez bien, mesdames et messieurs. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette unanimité. Madame Moulet-Trafort, c'est à toi, Patrick.
Alors, l'objet de cette délibération est une demande de subvention auprès du conseil départemental, de la région et de la DRAC. Dans le cadre de la création de nouvelles loges au théâtre Bassager. Alors, en fait, au regard de l'évolution de l'usage du théâtre Samuel Bassager, il est nécessaire d'augmenter la capacité d'accueil des loges qui accueillent les différentes compagnies. Donc, les travaux de création de loges supplémentaires et surtout équipées au rez-de-chaussée sont envisagés à une hauteur de 125 000
12 500 euros hors taxe, pardon. Il est donc prévu de lancer une étude de maîtrise d'œuvre et nous sollicitons donc une subvention qui soit la plus élevée possible au titre de cette étude de maîtrise d'œuvre pour la création de ces loges auprès du conseil départemental, du conseil régional et de la BRAC.
Bien. Pour l'amélioration de la création, que ne faisons-nous pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour les artistes. Ce tricoire va nous parler de sécurité publique.
Exactement.
Mais d'accord.
L'objet, c'est une demande de subvention auprès de l'État concernant le matériel et les aménagements liés à la sécurité publique. Alors, il s'agit de remplacer le procès verbal électronique, dit PVE, par le GVE, géo-verbalisation électronique pour la police municipale, et d'équiper la gendarmerie de Morio d'un système de vidéoprotection. Le coût prévisionnel de ces investissements est estimé à 18 334 euros hors taxes. Nous demandons la subvention la plus élevée possible pour ces équipements auprès de l'État.
Monsieur Laurent, Monsieur Capelletti.
Oui, j'ai une question, c'est en quoi, quel est l'effet sur l'amélioration de la tranquillité publique de ces éléments nouveaux par rapport à ce qui existait avant?
Quand on parle de tranquillité publique, c'est tout ce qui est lié au déploiement des forces de l'ordre, c'est-à-dire police municipale, gendarmerie et autres, c'est ça le terme. Le PVE est annulé parce que c'est souvent des tablettes qui ont fait l'objet d'un achat il y a plus de 10 ans, qui sont aujourd'hui obsolètes, et donc nous collons au marché
l'obsolescence
programmée de ces tablettes, qui a environ depuis 10 ans un service à la police municipale, qui va être remplacé par quelque chose qui est de la taille d'un smartphone, qui est exactement pareil, qui est géo-verbalisation électronique.
Dans quelques années, on aura l'humeur du policier, peut-être. Oui, c'est la modernisation de l'outil.
Le système de vidéoprotection, c'est quoi? C'est la finalisation du schéma
C'est un ajout que l'on fait au schéma de vidéoprotection de la ville de Mogio-Carnon, qui concerne les locaux de la gendarmerie.
Voilà. C'est peur quand vous cambriolez le gendarme?
Non, j'ai peur de rien, mais c'est des gendarmes, c'est un plan d'action national. Il y aura des subventions de l'État pour que la gendarmerie soit sécurisée. Je pense qu'actuellement, avec tout ce qui se passe, je pense que c'est...
On en est déjà là.
Ah, il faut
c'est sa première année de mandat, Macron, restez calme.
Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Patricia, vas-y.
Alors, à nouveau, des demandes de subvention qui concernent la modernisation numérique des médiathèques de Morio et de Carnon. Alors, dans le cadre de cette modernisation des équipements culturels de la commune, et plus précisément des outils des médiathèques qui se doivent être adaptés aux besoins de nos nouveaux publics, nous proposons une modernisation des équipements. Alors, elle doit s'opérer à la fois sur l'évolution du portail et le logiciel de gestion des bibliothèques pour Morio et Carnon, accompagné de la mise en place d'une borne technique dans la salle de conférence, d'une baie technique, et de l'achat d'un ordinateur portable sur le site de Morio. Le coût de ces investissements est estimé à 33 334 euros hors taxe. Nous sollicitons donc une subvention qui soit la plus élevée possible auprès du conseil départemental, du conseil régional et de la DRAC.
Voilà, merci Fati. Après l'agrandissement de la médiathèque à Carnot, alors, on modernise l'outil également pour afin de faire bénéficier des meilleures conditions d'utilisation. Monsieur Pradel.
Je vois toute une série de demandes de subvention. On ne sollicite jamais l'aglo du Pays de l'Or.
On est exclu. Ça n'est pas sa compétence.
Médiathèque de Montguil, c'est la compétence du conseiller départemental.
Les médiathèques ne sont pas gérées, ne sont pas les compétences de la communauté d'agglomération. Non. Le département, oui, puisqu'on a des partenariats avec l'IR à la mer, il y a une compétence partagée, oui, absolument. Et l'agglomération, effectivement, on l'appelle pour la vidéoprotection des activités économiques, par exemple. Pour ça, oui. Oui. Ou pour l'aide à la pierre. Il faut qu'ils nous rendent de l'argent qu'ils nous ont pris. L'État, 424 000. Ça sert, c'est un... À l'économie circulaire. En fait, on a perdu ça. Bien.
cette demande de modernisation de numérique. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard, M. Cassard revient, il ne va pas lâcher le morceau comme ça.
Je conclue. Donc là, c'est simplement un point d'information. On vous demande de prendre acte du bilan des cessions et acquisitions 2017. Comme vous le voyez, il n'y a pas eu de cession et les acquisitions. Est-ce que je vous les énumère ou est-ce que vous les avez déjà mis?
Non.
Alors, je vous demande de prendre acte du tableau des acquisitions 2017.
Merci Bernard. Sophie, Mme Crampagne va nous parler quelque chose d'un peu triste, c'est une fermeture d'école.
Fermeture du cinquième poste, on va s'arrêter juste
là.
Fermeture du cinquième poste à l'école maternelle Jean Moulin. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale, par courrier du 5 mars 2018, confirme qu'après avoir consulté le comité technique spécial départemental et le conseil départemental de l'éducation nationale, a arrêté la mesure suivante, fermeture d'un cinquième poste à l'école maternelle Jean Moulin. Il est donc proposé aux membres du conseil de prendre acte de la mesure arrêtée par monsieur le directeur académique des services de l'éducation.
Bien. Monsieur
Capitaine. Non, là, c'est intéressant de savoir pourquoi, évidemment. C'est le moment de le dire.
Ah,
suspense.
Parce que malheureusement, nous perdons 20 élèves.
Et pourquoi on perd des élèves? C'est très important,
oui,
hein, puisque...
On revient à ce que vous disiez tout à l'heure, quartier vieillissant.
Donc, manque de construction de renouvellement urbain, et manifestement, vieillissement de la population, et fermeture de classes, et donc économie qui pique du nez.
C'est QFD.
Voilà.
Et donc, on la rouvrira bien vite avec les arrivants de la fin de boucle.
Nécessité effectivement de veiller à un renouvellement accompagné, mesuré, et éviter que la pyramide des âges ne nous joue des tours. Tout ça, ça se planifie, c'est pour ça que avoir une vision sur 10 ans, sur 15 ans, n'est pas forcément une mauvaise idée. Monsieur Bradley.
Une première remarque, je peux comprendre qu'on avait essayé de batailler, mais qu'on avait perdu la bataille au rectorat, donc c'est toujours bien de se battre. Mais ça montre au niveau national que quand on n'embauche pas plus d'enseignants, quand on ne recrute pas et qu'on annonce qu'on crée des postes, c'est du redéploiement. Hein. Donc au niveau gouvernemental, ça sert. Je dis pour ceux qui auraient encore quelques croyances par rapport au gouvernement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Deuxième, et malheureusement, je crois que le phénomène s'accélérera. Et en ruralité, ça va taper très fort. Parce que quand on dit qu'on va dédoubler, qu'on va réduire par deux le nombre d'élèves,
vous digressez.
Oui, mais ça se fera. Parce que j'explique, je réponds à mon collègue Capletti, qui dit, mais comment se fait-il? C'est une explication. C'est parce qu'on n'embauche pas et donc on est obligé de serrer et de redéployer. Premier point. Deuxième point, moi, il y a le problème urbanistique dont on parle. Si vous vendez du 3000 euros le mètre carré ou du 4000 euros le mètre carré, vous n'aurez pas des petits jeunes avec des enfants. Hein. Je préfère que vous ne soyez pas trop déçus. Donc si la Fondation Mobio, vous avez un bon contingent de logements sociaux, vous aurez peut-être un peu de jeunesse. Mais si on n'y veille pas, ça c'est deuxième remarque. Dernière remarque, on est en concurrence avec d'autres villes. On est en concurrence. Et certaines familles, quand elles s'établissent, elles regardent attentivement ce qu'on fait en prestations scolaires, périscolaires, et elles vont dans les villes où leurs gamins sont le mieux, elles vont s'établir là où les gamins sont le mieux encadrés, le mieux accompagné, par exemple. C'est pour ça que je proposais...
Le prix des vacances sportives.
C'est pour ça que je proposais... Je ne vais pas parler des vacances sportives, je vous en fais grâce, mais j'ai entendu ce que vous disiez. Et c'est pour ça que, par exemple, je nous avais conseillé de valoriser le fait qu'on avait équipé avec nos écoles,
oui.
Et de le mettre très en avant pour que les parents qui doivent s'établir viennent. Je finis sur la question de Carnon, parce que je pense qu'on aura un jour des soucis de fermeture de classe. Sur Carnon.
On les a déjà.
On les a déjà. On peut avoir des politiques d'accompagnement. Je vous donne une piste, monsieur l'adjoint au sport. Quand des petits à Carnon veulent faire du foot, moi j'ai été sensibilisé par une association de jeunes qui veulent faire du foot à Carnon. Et qu'on leur dit non, vous ne pouvez pas faire de foot à Carnon parce qu'il y a déjà du foot à Montbio, ça va nous affaiblir. Donc moi je nous invite à reprendre, je vais revenir vers vous par écrit certainement, monsieur l'adjoint. Il faut, on avait des installations, je ne sais pas si on les a toujours. Vous leur avez dit qu'ils n'auraient pas de créneau parce que ce n'était pas la politique maison. Je nous invite à revenir sur la politique maison. Parce que si on a des gamins à Carnon, ils ne viendront pas jouer au foot à Montbio. Et au bout de bout du Garrelas, on aura, si on n'a même pas du foot, on aura moins de gamins qui s'installeront, de familles qui viendront avec leurs gamins à Carnon. Donc si je vous donne une piste pour avoir plus de gamins à Carnon, laissez vivre un club de foot résident à Carnon.
Bon, vous retardez un petit peu, mais c'est votre point de vue. Très bien, on le prend comme ça. Allez, je ne réponds pas.
Mais,
non, mais
je vous ferai des questions.
L'ancien président du foot, qui était un ami, Pierre Valls, qui est décédé il n'y a pas longtemps, et qui militait, qui était président du football club de Carnon, on a ensemble accompagné justement la manière de travailler avec le club de Montbio, la manière d'équiper Carnon avec pratiquement 800 000 euros qui ont été mis sur le gymnase, les salles de musculation. On a créé un terrain qui ne convenait pas en centre-ville, on l'a déplacé à un endroit où on a négocié avec l'agglomération, puisque le terrain de l'ancien stade de foot ne nous appartenait pas. Et aujourd'hui, on ne crée pas deux clubs. Quand on est dans la même division, on est en complémentarité. Ça se fait pour le rugby, vous le savez très bien. Ça peut se faire pour le foot. Pour ce qui est des écoles, on est allé à la bataille, mais on n'avait pas les armes. Quand vous avez 500 élèves et 20 enseignants, ça fait 25 élèves par classe. On ne peut pas aller plus loin que ça. Même s'il s'agit d'enfants qui sont dans les unités d'enseignement maternel, des enfants qui ont besoin d'un accompagnement puisqu'ils sont atteints de troubles autistiques. L'occasion pour vous de préciser votre position vis-à-vis du chef de l'État, ce qui n'est pas le propos, pas plus que ne l'est le mien, de commenter votre position, que je respecte. Voilà. Une dernière intervention.
Je voudrais rajouter, effectivement, on a créé, dans n'importe quelle discipline, on n'était pas deux clubs identiques à Montbio-Carnon. Par contre, le football à Montbio, le football à Salle, à Montbio est interdit. Il n'y en a pas. Par contre, ici, il y a une équipe. Ils ont des créneaux. Ok. Le stade de Bissigua, qu'on parle, c'est un stade de foot à 7. Les Carnonais, ils y vont quand ils veulent. Donc, c'est pas interdit. Effectivement, on n'a pas de terrain. Mais le futsal, c'est réservé à Carnon, parce qu'on n'en a pas à Montbio. Je veux dire ça. On ne peut pas créer deux clubs de rugby, deux clubs de foot, deux clubs de ping-pong, on n'en sortira jamais. Et aujourd'hui, si l'autre pratique le football.
Si j'épluche tous les clubs, je ne trouverai pas deux dans la même ville.
Allez, vous me direz.
Voilà,
vous direz.
Bon, vous avez changé, c'est très bien. Bon, au centre, on passe au vote. Alors, il n'y a pas de vote.
On ne vote pas là-dessus, monsieur.
Monsieur Tricoire. Laurent.
Oui, donc nous, on vous annonce que deux agents du pôle jeunesse ont réussi le concours de catégorie B et ce soir on vous propose de leur créer deux postes de catégorie B et dans la foulée de fermer les deux postes sur lesquels ils étaient avant de réussir le concours, tout simplement. Ça c'était pour le point numéro 20.
Ok. On passe au vote. La promotion des agents. Contre. Abstention. Je vous remercie.
Donc, ensuite on va parler des créations de postes pour les saisonniers pour la saison 2018. Donc vous avez toute la liste qui vous est énoncée. Je peux donner une ordre d'idée par rapport à l'année dernière. Il y a un poste en moins parce qu'il y a une activité en moins. Sinon, c'est du pareil au même. On a toujours les 7 postes d'assistants temporaires de policiers municipaux, PAL, qui vient à Carnon. Sinon, le reste est déployé de la même façon.
Merci Laura. Monsieur
Zicois, quel est le sous quel critère vous embauchez ces jeunes?
Bon, tout simplement, il faut qu'ils s'inscrivent, qu'ils fassent un dossier et qu'ils nous l'envoient au groupe RH de l'année. Tout simplement, et après on les trie en fonction. On avantage les gens de Carnon et de Montbio, bien sûr, les jeunes qui favorisent l'accès aux gens qui habitent sur notre commune, mais après il y a tout un tas de critères. Les capacités, tout ça, c'est regardé, quoi. Est-ce que si on cherche un jardinier, il faut que la personne ait quand même un minimum
Je vous pose cette question parce que tout à l'heure on a parlé des plages privées. Peut-être qu'il serait intéressant de demander aux gens qui s'implantent sur les plages privées de donner priorité à l'emploi des jeunes de Montmorillon, même de la Gourde et Pays de l'Or. Pourquoi pas? Pas tous, mais de créer un pourcentage.
Monsieur Frappoli, toutes les fois qu'une activité économique reprend ou qu'elle se crée, nécessairement nous adressons des CV, que ce soit les concessionnaires de plages ou les entreprises qui se montent ici, les entreprises d'intérim, ça commence des fois par un CDD, ça finit par des CDI. Oui, mais c'est un réflexe que nous avons.
Tant mieux.
Très bien. Moi, je pense
que ça va.
Nous aurons au moins partagé un point.
Ça va sur le point suivant, sur la SNSM. Je voulais vous proposer la même chose.
D'accord. On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Et le dernier point, c'est la SNSM, justement, Laura.
Donc, comme chaque année, on passe une délibération pour la convention de la SNSM 2018 sur surveillance des plages et formation des nageurs sauveteurs. Donc, voilà, comme chaque année, on fait appel à la SNSM pour surveiller nos plages et se rajoute aux heures et aux jours d'ouverture et leur présence sur la plage un coût de formation qui est de 7 euros par nageur sauveteur, soit un total de 8 295, qui est à l'identique de l'année dernière, puisque le dispositif n'a pas changé d'une année sur l'autre.
Monsieur Frappoli,
puisque c'est la fin, je vais faire une proposition. Bon, simplement, monsieur le maire, dans le cadre de cette formation, pourquoi on ne pourrait pas y mettre détaché un policier municipal dans chaque poste de secours de la SNSM, avec une estampille, évidemment, police municipale, de manière à ce qu'il puisse faire, lui, la police de la plage, en même temps que la surveillance des baigneurs. Ça éviterait peut-être, en fonction de certaines difficultés, de pouvoir faire état de sa fonction pour régler un problème qui va du chien errant à un jeu de ballon intempestif. Voilà, c'est ce que je veux. Pour la petite information, c'est ce que j'avais mis en place à Gruissan à l'époque où les CRS étaient encore sur les plages.
Voilà. Oui, c'est peut-être une possibilité, effectivement, si ce n'est que nous avons en période estivale la nécessité de renouveler les brigades, notamment au Petit Travers, notamment ici à la plage des Rouquilles, et que les attributions des maîtres nageurs sauveteurs sont particulières. C'est la surveillance, j'allais dire, de la baignade. Parfois, on y conjugue celle de la sécurité. Effectivement, les effectifs sont revus cette année avec un accent qui sera mis, justement, pendant les périodes où on a jugé qu'il n'y avait pas assez de policiers, pour mieux rééquilibrer l'augmentation des policiers ici à Carnot pendant ces heures estivales, en sachant qu'on améliore l'accueil, qu'on est en train de revoir l'accueil ici juste à côté,
oui, je sais,
pour que la police municipale et la police nationale puissent recevoir, enregistrer les plaintes que les Carnonais, qui seraient malheureusement victimes de vol, ne sont pas obligés d'aller à la
main. Moi, je vous parlais, monsieur le maire, d'agents municipaux. Ce n'est pas nécessaire de mettre un gendarme ou un CRS. Si vous mettez dans un poste de police un gardien de police municipale qui est surveillant de baignade, par exemple, avec un permis de bateau, et qui a une représentativité policière sur un t-shirt, à partir de là, il peut être un élément complémentaire de la sécurité et de la police des plages. C'est tout ce que je voulais dire.
Oui, ils ont déjà des affectations. Et dans l'idéal, ça serait très bien.
C'est une proposition.
Très bien. Bon, on passe au vote de cette attribution. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre participation à ce conseil municipal qui est fort de sens et qui, j'espère, satisfera les attentes des Carnonais auxquelles je donne rendez-vous pour le rayon public le 26 avril, d'un soir à Véran. Bonsoir et bonne soirée. Le prochain conseil municipal...